très éprouvant. Parce qu'on fait déjà préparer le sujet, enregistrer, se taper la gueule de bois le lendemain, ça prenait du temps.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Camille, le retour.
Oui, ah, ça y est, je suis là. J'ai enfin eu un train qui fonctionne.
Et bah ça fait très plaisir.
Je remercie la SNCF.
Et bah oui, alors voilà. On la remercie également. Et en plus,
de m'avoir amené à bon port.
Comme je disais juste avant, je suis très content parce que du coup, je pense que j'aurai moins de chances de me faire martyriser. Non pas parce que tu vas te faire martyriser, mais parce que, je sais pas, tu pourras faire office d'arbitre.
Voilà. Mais est-ce que j'ai pour habitude de faire office d'arbitre? Non,
la défense reste des droits, la défense... Alors, et Hicham
bonjour.
Ça va?
Très bien, et toi?
Ben, ça va très bien, merci. Et on a un invité aujourd'hui.
Oui.
Ah, personne de Julien.
Salut, salut.
Comment vas-tu?
Ça va super, je suis un peu ému parce que non. Je suis un peu trop fan de vous, mais ça va être trop bien.
Ah, oh, pas de chichi.
Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Parce que tu fais des choses très très cool.
Ouh, version courte.
Allez, on prendra le temps, mais comme tu veux. Fais-toi plaisir.
Ok. Moi, c'est
ça, ça veut dire à risque et péril.
Voilà, ça fait 15 ans que j'essaie de m'engager à mon échelle pour les autres. Et du coup, je suis investi dans plein de structures pour essayer de changer un peu la France de l'intérieur et de l'extérieur. Pour construire un avenir un peu joyeux. Et je pense qu'on en parlera un peu au fur et à mesure de l'émission.
Trop bien. Est-ce que tu veux pas au moins citer la plus grosse structure avec laquelle tu travailles, on va dire?
Oui, c'est celle pour laquelle je suis payé. Enfin, voilà. Je cherche des sous pour pouvoir me payer. Ouais. Qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. C'est un mouvement citoyen qui a 8 ans maintenant et dont j'ai la direction depuis un peu plus de 5 ans.
Beau bébé, putain, la classe, trop bien. Mmh. Et voilà, c'est très très chouette. Et on parlera, oui, de beaucoup de ce que tu fais. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Et parler peut-être d'un lieu de rendez-vous où on peut te croiser assez souvent. Maintenant, on va peut-être commencer par des sujets, d'abord. Je vous propose de commencer avec mon petit sujet.
Allez, si tu insistes.
Voilà, je vais vous parler du breaking.
Le breaking all news?
Pas tout à fait, juste le
breaking bad?
Le breaking tout court, voilà.
Ok.
Breaking.
Tu vas casser des choses.
Un peu et un peu, on en parlera. Okay. Et du coup, après, ce sera toi, il faut fou.
C'est moi. Eh bien, écoute, moi, je continue sur ma lancée de... Je ne l'ai pas encore fait cette saison, putain de merde. Et donc, je me lance dans un quiz.
Ah oui, d'accord. J'ai cru que c'était une réflexion qui t'arrive. Genre, putain, je ne l'ai pas fait. Les chaussettes, là.
Non, un quiz sur des mots qui n'existent pas en français et qui devraient exister.
Ok.
Trop bien.
Voilà. Bah, trop bien. Hâte. Oui. Hâte. Après, ce sera Camille.
Oui, complètement. Et moi, je me lance dans un... Je l'ai déjà fait cette saison, je vais vous parler d'histoire. Hein.
Yes, toutes les deux semaines, hein, au final. Hein,
mais ouais, est-ce qu'on est vraiment surpris? Je ne crois pas.
Non, mais j'ai hâte. Et tu veux nous parler quoi, du coup?
Eh bien, de la plus connue des Bretonnes, en la personne de Nolwenn Leroy.
Ah oui, bah, ça ne s'est jamais fait, en plus. Mais
ça, c'est exactement. Une blague réfléchie, ça.
Ah, t'as vu? Ouais, j'ai
en plus, c'est
3 heures de TGV, je vais t'en
écrire. Une artiste de jadis.
Mais
c'est
bon,
tout à fait.
C'est bon, bien joué.
C'était le mot à placer. Mais en plus, oui, c'est quoi? C'était Starac.
Je crois.
Starac 2.
Voilà.
Starac 2.
Oh, putain,
il y a des fans. Il y a des fans. Non, je vais vous parler de Anne de Bretagne. Voilà.
Ah, c'est Starac avant, ça, je pense.
Ça, c'est Starac jadis. Ouais, la fameuse promo jadis.
C'est Starréac, ça, carrément.
Oh. Mon Dieu. Et après, Julien, de quoi tu veux nous parler? Parce que pour une fois, on finit par notre invité.
Oui,
première fois.
Parce qu'il a insisté.
Ah, c'est vrai, oui, c'est pas
plaisir.
Nous qui. Voilà.
Non, mais du coup, Nolwenn, ça me fait penser à un truc. J'aurais pu faire un sujet sur les gauchers. Parce que Nolwenn Leroy est gauchère, comme beaucoup de gens. Et comme tous les gauchers, alors, je repère tous les gens qui sont gauchers, c'est un truc...
Mais oui, non, mais j'allais dire, mais comment sais-tu que Nolwenn Leroy
est gaucher,
parce qu'elle
ouais, les gauchers, quand ils voient quelqu'un écrire de la main gauche, ils font...
Il est d'accord.
On est potes.
Je vais pas m'avancer, mais tu sais que quand les droitiers voient quelqu'un écrire de la main gauche, ils comprennent aussi qu'ils sont gauchers.
ouais, mais ils sont pas du même crew, tu vois.
Ah ouais, Churchill, il était gaucher ou pas,
c'est pas... Bah, non.
Non, merde.
Bon, du coup, alors...
Sauf s'ils sont ratés dans The Queen.
Alors, de quoi tu veux me parler?
Moi, je vais vous parler utopie et cinéma.
Très hâte.
Trop bien.
Ok, cool. Donc, pas la planète des singes, déjà.
On y reviendra.
Bah, ok. Trop bien, j'ai trop hâte. Et bah, c'est parti. Allons-y.
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.
But first, we're going to dance class.
I'm a hip old granny who could hip-hop, bebop, dance till you drop.
And once the pain goes away, that's when the real battle starts.
Alors, commençons par... je dirais pas le plus important, mais le plus important pour commencer. Voilà. Alors, ce sujet, c'est sur le breaking. En vrai, on va parler. On va parler de breakdance. Donc, c'est le terme que vous avez pu entendre. Mais c'est un terme erroné. C'est un abus de langage. Donc, on va parler de breaking ou de b-boying ou de b-girling. Parce que voilà, c'est la bonne.
C'est différent.
Alors, justement, j'expliquerai pourquoi. Okay. On va déjà faire un petit flashback sujet hip-hop, épisode 11, saison 2. On était jeunes, fringants, pas de cheveux blancs, encore des cheveux sur le crâne, enfin bref, plein de choses. est-ce que vous vous souvenez un peu des débuts du hip-hop? Déjà, alors, une période de temps, à peu près
80...
Début 80.
Ah, début 70. 90, oh mon Dieu.
Non, mais c'est parce que c'est... Oui.
Non, tout début 70, il y avait ce cher DJ Kool Herc, qui était donc un des pionniers, un des DJ pionniers du hip-hop. Et pendant ces soirées, en fait, il s'est rendu compte que la foule, les danseurs devenaient ouf quand ils passaient un certain moment des chansons. Donc, c'était les solos de batterie avec potentiellement de la basse ou d'autres choses. Mais voilà, un gros solo de batterie très rythmé. Et donc, les danseurs lâchaient leur meilleur move. Et il s'est dit, tel un boulanger qui veut faire des baguettes avec que des quignons de pain, parce que les gens préfèrent les quignons de pain, lui, il s'est dit, tiens, en fait, je vais passer que des breaks que je vais enchaîner les uns après les autres, comme ça les gens ils vont danser tout le temps et il va y avoir une ambiance de ouf dans ma soirée. Donc c'est ce qu'il a fait, et les breaks, donc c'est cette période, enfin ces moments un peu rythmés, etc., qui ont également donné leur nom, pardon, au début à la musique qui correspondait à cet usage, donc le break, breakbeat, qui ensuite a enfanté d'autres styles de musique.
B-E-A-T, on est d'accord.
Oui, c'est pas un truc pour se casser à la tub, non, vraiment rien à voir. Donc, le breaking, c'est. L'instant de musique. Breaking, c'est le fait de danser. Et les danseurs sont appelés des b-boys ou des b-girls. D'où le thème b-boying, b-girling. Le b-boying, pourquoi on reparle des fondamentaux du hip-hop? Parce qu'en fait, il va faire partie justement des fondamentaux de la culture hip-hop, mais très tôt, dès le début des années 70. Et c'est notamment, on avait parlé parmi les arts entre guillemets majeurs de la culture hip-hop qui ont été entre autres promus par la Zulu Nation avec Afrika Bambaataa. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Si.
Voilà, je fais du gros name dropping là. Mais donc, les quatre piliers, parfois on en donne d'autres, mais quatre piliers de la culture hip-hop. Yes. Voilà, est-ce que vous pouvez deviner.
T'es tellement en forme, ça y est, ce soir.
Ouf, je suis en week-end.
Ramadan. Non. Donc, est-ce que vous vous souvenez d'au moins quelques-uns?
Non.
Mais attends, mais on remonte à une saison de y a fort longtemps.
Ah, il y a trois saisons.
C'était le monde d'avant. Okay, aussi.
Donc personne n'écoute mes sujets, super.
Mais si.
Donc on a le DJing.
Ah, mais il fallait le dire aussi.
Pour les devinettes. Donc le DJing, le fait de mixer de la musique, en fait.
Ouais.
Le MCing.
J'ai failli le dire, je te jure.
Ah oui, bien
je
sûr.
Te jure.
Mais avec sa tête de bon élève, là.
Mais madame, j'ai failli le dire. Madame, je peux pas avoir un demi-point? Le graffiti painting, le fait de faire des graffitis. Jusque là, les noms sont assez équivoques. Et enfin, le b-boying, donc le fait de danser sur ces trucs-là. Bon, on en rajoute parfois, mais c'est ceux-là qui vont nous intéresser le plus. Et ce qui est intéressant, notamment dans la naissance du mouvement hip-hop, de la culture hip-hop, en fait, donc ces activités, elles étaient notamment promues par la Zulu Nation pour combattre la violence qu'il pouvait y avoir dans les quartiers, dans les cités, dans les les banlieues. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on va le revoir dans le breaking. Il y a une notion aussi de l'affrontement, enfin du défoulement, de l'affrontement. C'est quelque chose qui reste inscrit dans cette culture, mais c'est une façon, enfin. En gros, on va passer d'affrontement à couteau et cocktail Molotov à affrontement en rappant et en dansant. Franchement, on y a gagné au change, donc c'est plutôt cool. Alors, comment le breaking s'est développé? Alors, le hip-hop, ça a suivi un peu le même mouvement. Pour moi, c'est un exemple de développement des contre-cultures à la fin du XXe siècle. Globalement, le breaking va se développer sur la côte est des États-Unis, principalement pratiqué par des personnes issues des minorités aux USA. Donc, ils vont contribuer à la richesse du breaking en amenant des choses de leur culture petit à petit. Mm-hmm. Et voilà, ça a commencé vers New York, enfin autour de New York. Et après, comment ça s'est développé plus loin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Et en fait, ça va observer un schéma similaire des années 70 jusqu'au début des années 2000. Donc, pour commencer, c'est un développement qui va être très agressif dans les quartiers populaires. C'est ultra novateur, c'est puissant, c'est un moyen de s'exprimer. Donc vraiment, ça va faire énormément d'adeptes. Ensuite, les breakers et les crews, ils vont gagner en popularité. Les battles, ça va être des rendez-vous majeurs et les plus grosses performances seront enregistrées. C'est comme s'il y avait, je sais pas, le match des deux grosses équipes de foot du quartier. En fait, il y a des gens qui vont dire c'est tellement ouf que j'ai envie de capturer ce moment. Et après, ça va pouvoir se revendre des personnes qui pouvaient pas être là ou partager cette culture. Enfin, il y a quelqu'un en dehors de l'épicentre qui a accès à une de ces vidéos ou à un événement majeur et qui ramène ça chez lui ou chez elle. Okay. Mais donc, c'est soit quelqu'un qui va aller, par exemple, dans les coins où sont nés le hip-hop et le breaking, ils vont se dire « putain, c'est trop ouf ». Et quand ils rentrent chez eux, ils font « non, mais il faut qu'on fasse la même chose, en fait, ça déchire ». Soit c'est des gens, ils ont un pote qui habite vers New York et qui va en vacances et qui lui amène une cassette en mode « putain, faut que tu regardes ça, absolument, c'est trop ouf ». Donc une fois qu'il y a ce développement et ce côté un peu...
du bouche à oreille, quoi.
Alors oui, mais c'est beaucoup plus agressif. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu Plague Inc.
Mm. Si.
Voilà. Une fois que tu as un virus qui est implémenté quelque part, voilà. Donc voilà, le
niveau 4.
Donc le hip-hop, c'est très peu létal, mais très contagieux. Et une fois justement que ça a été, que ça se retrouve à plein d'endroits, et ben là, c'est pas les médecins qui réagissent, mais ce sont les médias. Et donc, ils vont sauter sur l'occasion de faire un scoop culturel et de dire, oh, cette nouvelle pratique. On a connu la même chose avec comment ça s'appelle, les gens qui mettaient leurs bras autour de la tête pendant cette
tectonique.
Voilà. Heureusement, ça n'a pas donné les mêmes résultats, mais on a eu un peu le même principe. Et donc, on parlait tout à l'heure de breakdance. Mais en fait, ce terme, il a été créé par les médias quand ils se sont saisis du sujet. Donc voilà, ils ont dit...
L'appropriation culturelle. Quoi.
Et, non, mais exactement. Donc, quand ils disent, ces jeunes qui ont fait du breakdance. Donc, c'est pour ça que si vous parlez avec des gens qui font du breaking, ils vont être généralement... Alors, je pense qu'ils apprécieront le fait qu'on parle de breaking, b-boying ou b-girling, parce que c'est vraiment ça qui faisait partie de la culture hip-hop. Le breakdance, c'est arrivé après. Donc ça voilà, c'est l'essor culturel du hip-hop. Il y a aussi eu des gros événements culturels qui se sont lancés, enfin des événements, des compétitions, des affrontements, etc. Et voilà, c'est aussi ça qui a poussé les danseurs et les danseuses à repousser leurs limites et aussi avoir des événements internationaux où les danseurs pouvaient aller d'un pays à l'autre et s'affronter les uns les autres et apprendre des autres. Les mouvements, le hip-hop, enfin le breaking, le b-boying. Quand on regarde un battle, ça peut paraître ultra complexe. On se dit putain, mais ils font des trucs de ouf, je ne comprends rien. C'est magnifique, mais je ne comprends rien. J'arrive pas à identifier les mouvements les uns des autres. C'est hypnotique, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Déjà, la particularité du breaking, c'est que il y a beaucoup de mouvements au sol, ce qu'il y a assez peu dans la danse de manière générale. Et quand on dit mouvement au sol, c'est deux mains, deux pieds au sol en fait. Enfin, c'est déjà les mains au sol. Il y a assez peu de danse où ça se passe comme ça. Donc les mouvements au sol, on va appeler ça beaucoup les footwork. Donc justement, en ayant les mains au sol, on peut faire des pas de ouf avec ses jambes. Les inspirations du breaking, alors il y a une richesse de mouvements qui est folle. En fait, il y a beaucoup d'inspiration, notamment des sports de combat qui étaient très populaires à l'époque, années 70, donc notamment le kung-fu, les films de kung-fu, etc. C'était un truc de fou. Et il y a aussi, on parlait du brassage culturel, des inspirations d'autres, des minorités qui étaient aux États-Unis. Donc ça a amené la capoeira, ça a amené d'autres styles de combat qui pouvaient amener une richesse de mouvements. Et enfin, c'était une façon de combattre sans violence, donc c'est parfait. Et petit à petit, on a aussi d'autres inspirations qui vont être faites, notamment avec la gymnastique, parce qu'il y a des mouvements comme ce qu'on appelle les flares, si je dis pas de bêtises, des mouvements complexes où il y a les jambes qui vont virevolter au ciel pendant que les b-boys et les b-girls ont les mains au sol, et voilà, ça c'est des choses qui vont être inspirées de la gymnastique. Maintenant, si on découpe ça en mouvements de base, où du coup vous allez pouvoir comprendre quasiment tous les... Alors, mon but, ça va être de pouvoir vous faire comprendre tous les battles de break.
Parce qu'il y en a plusieurs.
Non, mais si vous voyez un battle de break, vous puissiez dire « Ok, il ou elle fait ci, ça, et je comprends.
Okay. »
Tu vas illustrer tes propos par des mouvements ?
Exactement. Alors, faites un peu de place au milieu, ça sera...
Voilà, parfait.
J'ai besoin d'un petit peu de place.
Je fais pas confiance à la table.
Ouais, non, par contre, sur la table.
Vous voulez dire que je suis gros ?
Et on va prendre des notes pour les prochains JO pour pouvoir un peu comprendre si c'est dur ou pas ce qu'ils font.
Eh bah, tout à fait. Tu le dis tout à fait, c'est le breakdance, breaking, sera au JO 2024 à Paris. Donc,
Deuxième fois.
Et on espère qu'il va continuer parce que c'est une performance physique qui est assez folle.
Tu saurais nous dire quand est-ce que c'était la première ?
Ah, j'avais plus fin 90, je crois.
Ah, ok, d'accord.
Je sais plus si 96 ou je sais plus quelle date c'était, JO d'été.
Très bien.
Donc alors, les types de mouvements, on va pas décrire tous les mouvements, les types de mouvements, tous les battles commencent par un top rock, donc c'est les mouvements qui vont se faire debout. C'est un peu comme une intro de ce qui va suivre, c'est une façon que les breakers ont de se présenter, en fait, de un peu présenter leur style, leur personnalité, etc. Pour passer au sol, en fait, ils vont faire ce qu'on appelle un drop, donc c'est les mouvements qui sont utilisés pour passer du top rock au sol. Et il ne s'agit pas seulement de se coucher au sol en mode burpees, quoi, genre tu te jettes au sol et boum, c'est réglé. Mais parce que tout le monde va aller au sol à un moment ou un autre. Voilà, le but, c'est de le faire en harmonie avec la musique, c'est de le faire avec des mouvements qui vont être originaux, complexes. Voilà. Une fois que les breakers sont au sol, ils vont faire des footwork, aussi appelés downrock, donc c'est en opposition au top rock. Et là, c'est un peu les trucs de fou, vous allez pouvoir voir des danseurs qui vont avoir les mains au sol et faire faire des pas de ouf dans tous les sens avec les pieds qui bougent très très vite. C'est une des particularités du breakdance. Il y a des mouvements classiques comme le three step ou six steps. C'est une façon de faire le tour.
Six fois.
Non, de faire le tour en posant les pieds avec six poses de pied, on va dire.
D'accord. Okay.
Mais ouais, vous verrez, il y a énormément.
Ce qui leur prend littéralement un dixième de seconde.
Ouais, ouais. Non, c'est vraiment fou. Et puis, ils peuvent faire ça. Alors, il y a le classique. Après, faire ça pendant que ton coude touche ta narine avec le genou au niveau de ta gorge. Enfin, non, c'est vraiment assez ouf.
On croirait que tu parles du jeu, tu sais où tu dois mettre ta main sur le
twister.
Voilà, le twister.
Tout à fait. Et alors, en parlant de danses qui sont proches du sol et assez rapides, est-ce que vous avez en tête un type de danse où il y a des mouvements de jambes qui sont assez osés en étant proche du sol?
La valse.
Tout à fait, tout à fait. Non, ça vous dit rien du tout?
Le truc russe, là.
Ah, voilà, les danses cosaques, effectivement, yes. Où les danseurs sont un peu accroupis et tendent les jambes devant. Voilà.
Carrément.
Il y a beaucoup d'inspiration qui a été prise là-dessus. Aussi, les danses slaves, les danses juives, avec des mouvements de pieds qui partent dans tous les sens et des envolées, etc. Donc, voilà, c'est super chouette de voir toutes ces inspirations. Donc, on a vu top rock, drop, footwork et... Maintenant, les mouvements les plus impressionnants, ce qu'on appelle les power moves. Donc, c'est le bouton spécial dans les jeux vidéo.
C'est ce que j'allais dire.
C'est les mouvements les plus impressionnants du breaking. Et c'est notamment, je pense, ce qu'on va voir le plus quand on veut illustrer le breaking. Donc, c'est les mouvements audacieux dans lesquels voilà, les danseurs vont tout donner. Donc, ils vont tourner sur leur tête, sur leur dos, sur leurs épaules, sur leurs coudes. Bref, c'est la folie. Franchement, j'aimerais pouvoir montrer des vidéos, j'aimerais pouvoir montrer des exemples. Je vous enverrai des vidéos sur les réseaux sociaux de Pardon Maman, parce que c'est vraiment ouf. Mais quand je dis tourner sur son coude, sur son épaule, etc., en fait, c'est effectivement le cas. Mmh. C'est vraiment, il y a des gens qui, en posant le coude par terre, ils peuvent faire six tours de toupie. Enfin, c'est vraiment impressionnant.
C'est incroyable.
Et voilà, c'est un mélange super impressionnant entre, je sais pas, la danse classique, le ballet, la danse moderne, entre des danses traditionnelles. Enfin, c'est assez impressionnant. Et là, on parle de mouvement de réalisation. Donc, il y a un côté technique. On parlera un peu sur les battles plus tard. Mais il y a aussi un côté artistique, en fait. Il faut le faire en rythme. Il faut le faire de manière élégante. Il faut que ce soit original. Le but, c'est pas de refaire ce que tout le monde fait. Donc, non, c'est une discipline qui est absolument impressionnante. Donc, pour finir sur les power moves, c'est aussi là, potentiellement, qu'on va avoir le plus de richesse avec, on en parlait, des inspirations côté danse, arts martiaux, gymnastique. J'imagine que vous voyez ce genre de mouvement, un des plus emblématiques où les... emprunté. Voilà, il y a une espèce de notion de toupie où danseurs...
tortue sur sa carapace.
Alors, il y a ça entièrement sur le dos. Après, il y a ça entre la tête et les épaules. Ouais. Il y a aussi un mouvement qui est emprunté au cheval d'arçon et aux barres parallèles. Je ne sais pas si vous voyez, avec les mains au sol, avec les jambes qui tournent autour, etc. Et bon, voilà, il y a énormément de variantes, mais je trouve ça magnifique. Un petit dernier, il y a les freeze. Le nom est assez clair. Voilà, il faut geler le mouvement. Donc, par exemple, si vous imaginez quelqu'un qui va faire 12 000 tours sur elle-même à une vitesse folle,
il s'arrête.
Voilà, c'est le fait de
son élan et tout.
Voilà, de manière élégante,
sans
se péter la gueule. Parce que t'imagines, si tu tournes de ouf et que tu vas t'arrêter d'un coup, tu peux te péter la gueule. Donc, voilà, le but, c'est de le faire tout lentement, progressivement, et potentiellement, en fait, se servir de ça pour faire une rupture, entre guillemets. Donc, faire ça, faire une pause pour repartir après.
Mais t'es gainé en permanence, quoi. Enfin, c'est ouf.
Ah non, mais physiquement, c'est la folie. Et un dernier truc, quelque chose qui va être notamment, ça nous fera une belle transition, quelque chose qui va être pas mal valorisé pendant les battles, c'est ce qu'on appelle les tricks. Donc en gros, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à un mouvement existant qui fait que voilà, ça va devenir quelque chose d'original, ça va devenir un truc cool. Maintenant, parlons des battles. Alors, je vais malheureusement pas pouvoir préciser tout le fonctionnement des battles, c'est, enfin, ça c'est fou, mais c'est un concept qui est au cœur du breaking. Donc le but du breaking, c'est pas seulement... Ah, c'est ma faute, une petite mise à jour, excusez-moi.
La base virale.
Les nouvelles tricks du battle sont à jour.
Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, comme je disais, le but, c'est pas simplement de faire la meilleure prestation possible, même si c'est un peu le cas, mais c'est avant tout de fumer la personne en face. Donc c'est vraiment une culture du battle où il y a okay. deux personnes ou deux groupes qui s'affrontent. Et voilà, si vous, enfin, si vous allez voir des breakers qui, voilà, qui vont vous expliquer un peu le concept, vraiment ce terme revient souvent, to smoke your opponent, vraiment il faut les fumer. Donc ça peut se faire en 1v1 ou en équipe, ça peut être à la fois de manière tout à fait, comment dire, de, tout à fait empirique, tout à fait organique plutôt. Donc des personnes qui vont se rassembler, qui vont faire former un cercle avec un affrontement qui va se faire au milieu. Donc les danseurs vont au milieu et les gens regardent autour, enfin, ils profitent du spectacle, ils vont mettre un peu d'ambiance. Ce qu'on appelle les cyphers, donc cyphers comme un siphon, un tourbillon quoi. Et donc c'est soit une personne qui va rentrer dans le cercle et dire toi là-bas je te défie, soit deux personnes qui sont d'accord pour se mettre sur la gueule en dansant et vont défier, donc ils vont danser chacun leur tour, mais ils vont quand même essayer de fumer la personne en face. Soit ça peut se faire par équipe. Et ensuite, donc c'est soit bah, chacun gère ça ensemble et ça peut être très, très amateur, ou ça peut devenir carrément compétitif. Et là, il y a des énormes compétitions dans le monde, où il y a notamment parmi les plus gros, c'est Red Bull qui a fait des compétitions monstrueuses, qui s'est installé dans le milieu du hip-hop depuis les années 90, je crois, okay. et qui a d'ailleurs une des plus grosses équipes de breakdance.
Red Bull existait dans les années 90.
Ouais. Ils existaient et ils ont commencé à beaucoup investir sur les événements et c'était, enfin voilà, c'est, ils sont okay. devenus très très gros. Donc si on parle de compétition, chaque compétition a ses propres règles, donc voilà, les sélections, etc. Ce qui est intéressant dans le hip-hop, c'est que dans les jurys, on va vraiment avoir besoin de personnes qui sont reconnues par la communauté. Donc soit c'est des anciens champions, soit c'est des personnes qui ont vraiment révolutionné le monde du breaking, qui ont inventé un move qui est devenu classique, enfin voilà, ce genre de choses. Et ensuite, bah voilà, je peux pas décrire tout le déroulement d'un battle. Chaque personne danse à son tour. Il peut y avoir plusieurs rondes, donc elles vont chacune enchaîner des rondes, ce qui peut faire de 30 secondes à quelques minutes. Les battles peuvent se faire par équipe, ou pareil, les équipes peuvent envoyer un danseur à la fois ou tout un groupe pour faire des routines, des petites organisations assez rigolotes et tout. Et enfin, une des choses qui m'a attiré sur ce sujet à la base, c'est ce qui se passe autour. Du battle. Donc si vous regardez ou si vous voyez passer des vidéos de mouvements de break hip-hop, quel que soit le nom qu'on leur donne, sur des réseaux sociaux, mettons, je sais pas, sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Parfois il y a des vidéos qui font genre, oh mon dieu, cette personne fait un truc de ouf, un triple salto arrière qui retombe sur son petit doigt, c'est fou. Et en fait, j'avais eu une vidéo comme ça et je voyais un danseur de l'équipe en face qui faisait un mouvement après que son adversaire ait fait son truc. Et je me dis, je comprends pas parce que vraisemblablement, ce mouvement a une signification, mais je n'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et du coup, je me dis, bah voilà, j'ai cherché ce que veulent dire, quelles sont les communications non-verbales pendant les battles de hip-hop. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, les gestes, un premier qui est très simple, c'est le fait de faire le mouvement de les yeux dans les yeux. Avec deux doigts, tu pointes les yeux du méchant en face, puis tes yeux. Alors, en fait, c'est parce qu'un battle doit se faire, c'est vraiment un affrontement qui doit se faire les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que si tu es trop préoccupé par ce que tu fais, c'est que t'as pas les épaules pour gérer ce fight. Donc okay. si ton adversaire voit que tu le regardais pas,
en fait, tu me fais pas peur quoi.
Et c'est exactement ça. C'est vraiment un coup de pression. Le fait de compter sur ses doigts, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Ça veut dire que tu passes trop de temps.
Un compte à rebours?
Non, c'est parce que tu répètes tes mouvements. Tu as fait ce mouvement déjà une fois, deux fois, quatre fois.
Ah, genre. Ok.
Vas-y,
tu fais tout le temps la même chose.
Voilà, tu te répètes, c'est nul. Le fait de marquer la mesure. Là, c'est assez simple. C'est quand le danseur en face danse pas en rythme. Ouais. Genre, tu rates ton truc, il te dit genre non, mais franchement, concentre-toi sur la musique parce que là, c'est très. Enfin, la musique est ultra importante. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les DJ ont une place super importante pendant les battles. Et les danseurs, généralement, ne savent pas ce que va passer le DJ. Donc, c'est vraiment.
Voilà,
faut s'adapter.
C'est encore plus dur, quoi.
Et par des récits, parce que j'ai regardé vraiment plein de vidéos de personnes qui faisaient des tutos de break, etc. Je n'en ferai pas. Voilà, c'était pour me renseigner. Il y en a qui disaient notamment, ça peut être très dur de se concentrer pendant un battle, pendant une compétition, parce que la musique est ultra forte, il y a le public et machin, enfin bref. Donc voilà, taper la mesure, ça veut dire, mec ou meuf, t'es pas dans les temps, concentre-toi, tu fais de la merde. Donc quand je dis concentre-toi, ils se foutent de leur gueule, vraiment, c'est pas genre, tiens, je fais ça pour être gentil. Un qui est assez rigolo, c'est le fait de taper par terre. Donc, quand il y a un de vos adversaires qui tape par terre, enfin, en gros, quand tu
mais tapes. Genre qui tape par terre, enfin.
En gros, tu tapes par terre pour faire du bruit, ça veut dire que tu as repéré le fait que ton adversaire avait raté son mouvement.
Donc, okay.
Tu lui signales que, hé, là, ça s'est pas passé exactement comme prévu, même si t'as fait style, je sais que tu t'es planté. Et... Donc, le but, c'est de faire comprendre à tout le monde que t'as vu que la personne avait chié un truc.
C'est comme au foot, quand il y a tout le monde qui lève le bras pour dire que quelqu'un a fait une faute, quoi.
Bah, franchement, c'est un peu ça. Et c'est aussi
ouais,
une façon
foot,
de.
Au foot, il lève le bras tout le temps.
Bah ouais.
Et malheureusement, dans certaines tribunes, un bras, politiquement pas accepté, mais voilà. Passons à autre chose. Mais voilà, et puis c'est aussi mettre un coup de pression en fait. C'est genre, tiens, tu t'es pété la gueule, je le sais, t'as essayé de faire style. Voilà. Et le dernier, un que justement, vous pouvez pas mal voir dans ce genre de vidéos que vous pouvez voir passer. J'ai partagé ça il y a pas longtemps d'ailleurs sur mon compte Instagram où j'ai pas beaucoup d'abonnés.
Oui.
C'est.
Et pas moi. Enfin, alors... je dis oui que t'as partagé, pas ouais, que t'as.
Non, en fait, voilà,
c'est tombé au mauvais moment.
Il y a un breaker qui a fait un mouvement de ouf, il a fait une espèce de flip, donc de salto, et il est retombé à peu près sur le ventre, je crois, un truc comme ça. Donc en fait c'est possible de faire ça sans se blesser en vraiment en gérant bien les angles avec lesquels tu as touché le sol, etc. Et donc tout le monde était ouf en mode oh, c'est un truc de fou, et en fait dans l'équipe d'en face il y a un mec qui a fait un mouvement exactement, un mouvement en gros vous imaginez les bras face à vous parallèles l'un au-dessus de l'autre et ils vont se comment dire, vous allez faire en sorte que vos bras se touchent, enfin vous allez bouger
les
vos bras de
vont voilà, se heurter
voilà exactement donc les avant-bras de haut en bas, et en fait ça fait un mouvement de mâchoire. Et en fait, ça veut dire bite, encore une fois, en anglais, B-I-T-E, mais en anglais. En fait, ça veut dire que tu as piqué ce mouvement à quelqu'un d'autre. T'as bouffé ce mouvement à quelqu'un d'autre. Okay. Donc, et puis, c'est ultra
mal. Du plagiat, quoi.
Bah, en fait, il y a une grosse.
Pour le Gad Elmaleh.
Oh, bâtard. Non, il y a une grosse question d'ego, d'honneur, etc. Parce que les battles qui se font, pas dans la rue, mais dans les petites soirées, etc. En fait, tu vas jouer ton honneur. Il n'y a pas 2 millions à gagner, mais tu vas jouer ton honneur. Donc, quand tu as piqué un move à quelqu'un d'autre, franchement, c'est le truc horrible à ne jamais faire. Et donc, pour finir, on a parlé rapidement, mais donc le breaking sera au JO 2024 à Paris, donc j'ai carrément hâte. Et si vous posez des questions, je vous encourage à aller sur le site de... Alors, on ne cite pas de marque, mais bon. Le site de Red Bull qui donne plein d'informations sur vraiment la genèse du hip-hop. Il y a notamment une vidéo trop bien, je crois que c'est ABC Breaking, un truc comme ça. Une vidéo de 20 minutes qui parle de plein de choses, vraiment les événements majeurs du hip-hop et tout, avec, avec vraiment des gens qui ont façonné ce milieu. Et donc c'est trop cool.
Et comme on est dans la promo, et comme ça fera deux trucs, et que c'est en lien avec mon thème de ce soir, je vous propose de regarder en ce moment le film documentaire qui a été fait par Thierry Demézière et Alban Turley, qui raconte l'histoire d'une section hip-hop qui a ouvert dans un lycée parisien il y a quelques années, hyper intéressant pour réconcilier et donner de l'espoir aux jeunes des quartiers. Ça fait complètement lien avec ce que tu as dit. Et juste pour info, comme ça, il y a 150 sections hip-hop au collège en France pour essayer de venir avoir une équipe un peu correcte pour les JO de 2024.
Ah, trop bien.
Alors
du coup, ce film, où est-ce qu'on peut le voir ?
Alors, il est sorti au mois d'avril, donc il est plus dans les salles.
Surprise, putain.
Mais coup de chance et auto-promo, c'était pas fait exprès, mais on est un peu en tournée en ce moment pour permettre à plein de jeunes qui vont jamais au cinéma dans les quartiers de voir ce truc-là et de faire des débats. Et donc, vous pouvez aller sur notre site pour voir. On est la semaine prochaine à Gennevilliers, la semaine d'après à Trélazé, à Dunkerque, à Saint-Maur-des-Fossés.
Et, c'est pas ça, Montreuil.
Et donc, on enchaîne un petit peu partout en France. Montreuil n'est pas encore programmé, mais si le maire de Montreuil entend ça, on sera ravis de le faire avec les gamins d'ici.
Bah, trop bien. Bah, franchement, j'ai trop hâte. C'est un milieu que je trouvais vraiment passionnant. Et j'ai passé vraiment des heures et des heures à regarder des battles de hip-hop à 2h du matin. Et voilà. Enfin, le côté artistique, le côté créatif, le repoussement de soi, c'est
hypnotisant.
Ah, c'est ouf. Ouais. C'est vraiment ultra impressionnant. Et en plus, c'est pas forcément. Enfin, on parle de battle, de fight, etc. En fait, c'est pas forcément agressif. Il y a des personnes qui font, je parlais des battles par équipe, des routines qui sont super rigolotes, qui mettent franchement vachement de cœur et tout, donc c'est trop cool. Et voilà, ce sera tout pour moi, mais du coup, on va passer à un petit quiz.
Oui, quizons.
Allez.
Très très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions.
Sans blague, tu sais pas ce que ça veut dire ?
Comment ça s'écrit ?
Regarde dans le dictionnaire !
J'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas.
On est complètement perdus !
Petit rappel. Du thème, De quoi?
On va jouer au Scrabble.
On a plus les pitorages quiz. C'était un enfant, ce truc, mais que sont-ils devenus?
Les piles ont fondu. Enfin, il y en a un où les piles ont fondu, littéralement.
Ouais, je. Donc,
non, mais là, de toute façon, c'est pas le plus rapide. C'est chacun. Je vais vous donner donc un mot qui existe dans une langue.
On est tous des copains.
Qui existe, qui a une signification bien particulière dans sa langue, du pays d'où il vient. Je vais vous donner quatre. Propositions, ouais. Pas de triche parce que la réponse est.
Et dans les propositions, voilà. Bah ça justement, on s'en doutait.
non, non, et du coup, voilà, je vais essayer de vous piéger.
Je pense que ça va marcher. Hein,
on a droit à l'appel à un ami
Non, parce qu'on est en mode avion.
Super.
Du c'est coup, vrai, c'est pas possible. Fun. Donc, on va commencer par le premier mot qui nous vient.
Est-ce qu'il y a une thématique?
Absolument pas.
Que des mots sur la montagne.
Non, ah non, non, en fait...
des mots sur la montagne, mon Dieu.
Donc, le premier mot nous vient d'Italie et c'est...
Abbiocco.
Abbiocco.
Voilà. C'est du vin blanc.
Donc, du vinaigre, peut-être.
Mais attendez, je vais en fait vous proposer quatre réponses et vous allez devoir choisir. Donc, la première, c'est... Est-ce que c'est avoir une envie irrésistible de parler de soi? En mode moi je.
Mais t'as dû te taper des barres pour inventer.
Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai plein d'idées dans ma tête.
Je suis tellement pas inquiète.
Donc, avoir une envie irrésistible de parler de soi,
ouais.
Est-ce que c'est se prendre une journée feel good pour se sentir comme une star de cinéma ou influenceur?
C'est trop bien.
Est-ce que c'est le besoin de faire une sieste après un repas copieux?
Ok, moi j'appelle ça un dimanche après-midi.
Ou est-ce que c'est être offusqué par un non-respect des traditions culinaires. Par exemple, la pizza sur l'ananas, la crème dans la carbo, la les merguez dans le couscous.
Moi, je vois bien ça.
Tu peux mettre le thon.
De quoi? Le thon sur la pizza ou dans...
Abbiocco.
Abbiocco.
Voilà, plus lentement.
Abbiocco. Ils sont chiants avec la bouffe. Ils t'insultent quand tu coupes tes pattes.
Donc, une bouffe pour Camille.
Allez, moi, je dis ça.
C'est quoi le deuxième?
Donc, je répète une
ça
dernière fois.
Ça va le troisième.
Je répète une dernière fois. Avoir une envie irrésistible de parler de soi, se prendre une journée feel good pour se sentir comme une star de cinéma, besoin de faire la sieste après un copieux repas ou être offusqué par un non-respect des traditions culinaires.
Moi, je dis deux.
Moi, je dis trois.
Trois et quatre pour Camille.
Absolument.
Et bah, un point. Pour toi, c'est bien le besoin de faire la sieste après un copieux repas. On dit avere la biocco. Voilà.
Ok.
Je vais à bioquer.
Oui, parce que j'ai trop mangé. Du coup, je vais faire une petite sieste. Ou j'ai besoin de faire la sieste parce que j'ai trop bouffé. On passe au deuxième mot. Et cette fois, on traverse tout le continent, j'ai envie de dire. On passe au Japon avec...
Geotori.
Pardon, vas-y.
Ouais, t'as fait exactement la même chose que la première fois que j'ai fait le sujet. Tu parles pendant que je fais passer les mots. Donc, deuxième mot.
Ageotori.
Oui.
Donc, ageotori.
Oui.
Est-ce que c'est être plus laid après s'être fait couper les cheveux?
Comment tu veux qu'on le sache?
Est-ce que c'est...
Moi, je sais pas, ça m'est déjà arrivé, mais...
Rassembler du monde en cercle pour faire un discours. Est-ce que c'est les métiers en rapport avec les animaux? Ou est-ce que c'est ce dit de quelqu'un qui se lave tous les jours?
Attends, mais...
Putain, Tori, c'est la porte. Je me suis dit, j'avais un truc.
Ouais. Attends, mais le nombre de conneries que t'as dû inventer...
Ah mais, non, mais non, ça marchait deux semaines.
Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est...
Donc, être plus laid après s'être fait couper les cheveux, rassembler du monde en cercle pour faire un discours, est-ce que c'est les métiers qui sont en rapport avec les animaux, donc les vétérinaires, le maître chien, les bergers, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui se dit de quelqu'un qui se lave tous les jours?
Non, moi, j'ai le premier. Je veux que ce soit le premier. J'ai tellement envie que ce soit le premier.
Moi, j'ai très envie que ce soit le premier, mais je vais dire le deuxième.
Ouais, moi, j'étais chaud pour le premier aussi, mais je vais dire le troisième parce que t'es trop fan des animaux.
Ah, non. Eh ben, c'est être plus laid après s'être fait couper.
Incroyable.
J'adore ce terme.
Mais
trop
ouais.
Ça se garde.
Mais... Tu peux le repasser pour s'en souvenir?
Ageotori.
Ah.
Mais genre, c'est-à-dire ta femme, elle rentre de chez le coiffeur et tu lui dis
Ageotori.
Ageotori, chérie.
Ou sinon, si elle te dit Ageotori, tu dis
fais, non.
Merde, t'as remarqué.
Non, je lui dis non, t'es très bien comme ça, franchement.
Un point pour Elias, un point pour Julien.
Oh, j'ai encore mauvaise.
On passe sur le troisième mot.
Un truc d'histoire.
Cette fois, on part en République Dominicaine, donc en espagnol.
Diploma.
Pardon?
Diploma.
Diploma.
Diploma. Plus lentement.
Diploma.
Diploma.
Est-ce que c'est... Non, mais tu vas pas trouver tout seul, Elias. Je suis désolé.
Va savoir.
Donc, diploma. Est-ce que c'est faire des guilis avec une plume d'oiseau?
Mais comment tu veux qu'on devine ça ? Il y a un moment, en fait.
Voilà, c'est... je vous apprends la culture.
Mais t'as bien conscience que là, c'est du doigt mouillé, ce qu'on fait.
Mais oui, tout à fait.
Mais t'avais Plata au plomo dans Narcos.
Donc, est-ce que c'est faire des guillis avec une plume d'oiseau ? Est-ce que c'est une personne qui ne peut pas terminer un repas sans une note sucrée ? Est-ce que c'est quelqu'un qui promet beaucoup mais ne tient jamais sa parole ? Genre un candidat à la présidentielle, ou est-ce que c'est une personne qui fait beaucoup trop de compliments, donc un candidat au municipal.
Est-ce que tu peux sortir la deuxième, s'il te plaît ?
Donc, je répète, un, faire des guillis avec une plume d'oiseau.
Ah non, c'est celle-là que je voulais. Alors,
deux, une personne qui ne peut pas terminer un repas sans une note sucrée.
Moi, je vote ça.
Trois, quelqu'un qui promet beaucoup mais ne tient jamais sa parole. D, une personne qui fait beaucoup trop de compliments.
Ouais, le deux.
Alors,
Superloma.
Alors moi je me pose une question mais qui a pas trop à voir mais
vas-y.
C'est possible d'avoir des plumes mais de pas oiseaux.
par exemple, si tu me donnes un exemple,
mais,
oui.
Mais du coup,
genre, parce que du coup on dit des plumes d'oiseaux mais je...
le fameux requin à plumes.
Des plumes d'une personne qui fait un.
T'as vu, c'est chaud quand même. Non, pardon. Mais du coup c'était là, je sais pas là, la question.
Non, mais des plumes synthétiques.
Non, moi je dis le dernier, la personne qui fait trop de compliments.
Trop de compliments.
Ouais. Mais des plumes synthétiques, oui, mais c'est des vraies plumes.
Moi je dirais celui qui fait trop de promesses.
Trop de promesses.
Et la petite note sucrée.
La petite note sucrée, eh ben 0 points, c'est quelqu'un...
Oh,
ah non, excusez-moi.
Quoi
toi, t'as dit
les
promesses.
Ouais.
Bah, c'est quelqu'un qui promet beaucoup, mais qui ne tient jamais sa parole.
Bien joué.
Oh là 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 là, il fait le break.
Ok, pardon.
Eh ben très bien. On passe donc au quatrième mot. Et on reste avec la langue espagnole. Et encore, en Amérique du Sud, on dit...
Cabeceada.
Cabeceada.
Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est le mouvement que fait la tête lorsqu'elle tombe parce que l'on s'endort ? Tu sais, un...
cabeça.
Est-ce que c'est un plat de cuisine ? Tu crois que je vais te donner des trucs aussi simples ?
Mais c'est de la fourberie, ça.
Est-ce que c'est un plat de cuisine qui ne donne pas envie visuellement et qui voudrait dire littéralement hachis de cerveau ? Est-ce que c'est avoir mal au crâne après avoir répété la même action pendant longtemps ? Ou est-ce que c'est dire quelque chose à l'oral et faire son geste contraire ? Par exemple, tu dis oui et tu hoches la tête. Ou tu dis je suis pas raciste et tu cries qu'il retourne en Afrique.
Ah, ça tabasse là, ça balance.
Donc, le hachis de cerveau. Moi, je pensais c'était tu dis comment tu t'appelles, mais c'était pas le dire.
Donc, le mouvement qui fait, que fait la tête lorsqu'elle tombe parce qu'on s'endort. Un plat de cuisine qui ne donne pas envie visuellement. Avoir mal au crâne après avoir répété la même action pendant longtemps. Ou dire quelque chose à l'oral et faire son geste contraire.
Est-ce que tu peux le repasser, s'il te plaît ?
Bien sûr.
Cabeceada. Cabeceada.
Le hachis de cerveau, définitivement.
Un hachis de cerveau pour la 2.
Oui.
J'ai fait de s'endormir.
À point, s'il vous plaît.
La tête
s'endormir pour la 1.
Ouais, j'aurais mis la 1 aussi.
Et bah, bien joué.
Alors moi, je suis vraiment pitoyable.
Mais une remontada est encore possible, Camille. On y croit.
Non.
Pour 6 points.
On y croit.
Le terme en remontada, justement.
Cette fois, on passe en Allemagne.
Ah bah, ça va m'aider.
Voilà.
Voilà. Le LV2.
Drachenfutter. Ah.
Pardon.
Drachenfutter.
Drachenfutter.
C'est allemand ?
Drachenfutter.
Ah.
Drachenfutter. Drachenfutter. Ok. Est-ce que c'est un cadeau qu'un homme fait à sa femme pour se pardonner d'une grosse bêtise ?
Non, vraiment l'accent. Je pense que,
je l'ai mis en gras, il fallait bien que... Bon. Est-ce que c'est des bouffées de chaleur causées par la nourriture épicée ? Est-ce que c'est ce qu'on dit de quelqu'un qui ne sait pas parler doucement ? Par exemple, « Ich bin ein Drachenfutter, wie Jean-Luc Mélenchon ». Et, ou sinon,
je sens que t'as fait des efforts pour trouver la syntaxe et tout.
Ou sinon, est-ce que c'est juste envier la denture de quelqu'un ?
Oh, putain de Dieu. Drachenfutter vit Jean-Luc Mélenchon.
Donc,
si c'est envier quoi ?
Les dents de quelqu'un.
Ah, mais si t'envies les dents de Jean-Luc Mélenchon, ça marche aussi.
Oui. J'ai pas souvenir de ses dents.
Non, mais j'ai pas souvenir de ses dents.
Je crois qu'elles sont pas dingues.
Bah, je pense que non plus.
Mais est-ce que c'est ses vraies dents aussi? Je sais pas.
Ah ben, personne se mettrait des fausses dents.
Alors,
Drachenfutter.
Alors moi, je dirais épicé. Ils mangent pas trop épicé, normalement, les Allemands.
Ça peut causer des bouffées de chaleur, du coup.
Ouais. Je suis pas convaincu.
Ok.
Parce que, à part le foie et currywurst, ça pique pas trop, quoi.
Et c'est bien.
Ils mangent d'autres choses, on est d'accord. Mais,
jamais mangé, je crois.
Bah, c'est du curry et des saucisses. Alors, les autres trucs, est-ce que tu peux répéter ça?
Donc, un cadeau.
On a vraiment aucune attention, moi aussi.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Mais c'est des définitions compliquées.
Trop de choix.
Pardon, j'ai roté. est-ce que c'est un cadeau qu'un homme fait à sa femme pour se faire pardonner d'une grosse bêtise?
Non.
Est-ce que c'est des bouffées de chaleur causées par la nourriture épicée? Ce qu'on dit de quelqu'un qui ne sait pas parler doucement? Ou envier les dents de quelqu'un?
Moi, je dirais la nourriture épicée.
Moi, je dirais le dernier.
Julia?
Parler doucement.
Eh ben non, c'est une grosse bêtise.
Mais non.
C'est un sans faute de la faute.
Et ce qui est drôle, c'est que
Drachenfutter
veut littéralement dire nourriture du dragon.
Ok.
C'est pas du tout.
C'est vrai que dragon, ouais, il y avait un truc.
Ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis la nourriture épicée. On s'est réfléchi dans sa tête.
Malin.
On change de continent. Par contre, j'ai pas trouvé de son parce que c'est en malaisien, en malais. C'est Eng Sang, E-N-G-S-A-N-G.
Donc, ok.
Eng Sang. Est-ce que c'est faire une chanson pour une cause bien précise? En même We are the world.
Ouais, les restes du cœur, voilà. Exactement.
Est-ce que c'est expirer la fumée de tabac par le nez?
Eng Sang, ouais.
Est-ce se moucher avec les doigts?
Eng Sang, ouais.
D, quelqu'un qui a radicalement changé de vie ou de métier. Par exemple, passer de trader à boulanger ou de policier à prêtre.
Ouais, Eng Sang, de ouf.
La chanson, la fumée par le nez, se moucher par les doigts ou changer de vie radicalement.
Ouais, se moucher avec les doigts. Hein.
Ah, moi aussi, je voulais dire
ça. J'aurais dit aussi, mais ouais.
Vas-y, redis. Je vais pas écouter les autres, du coup.
Alors, Eng Sang, faire une chanson pour une cause précise. Expirer la fumée de tabac par le nez.
Allez.
Se moucher avec les doigts.
Je prends la 2.
Et quelqu'un qui a radicalement changé de vie ou de métier.
Non, je dis la 3.
Donc, se moucher avec les doigts pour Camille, expirer la fumée de tabac par le nez.
Les doigts pour moi.
Et les doigts. Eh bien, c'est se moucher avec les doigts.
Ça y est, j'ai un point, mon Dieu.
Allez, voilà, donc 3 points, ouais. 1 point et 3 points. Non, 2 points, Julien. 3 points, je sais plus.
2 ou 3, je sais plus. Ouais, pas compté.
De toute façon, c'est celui qui va trouver le dernier qui va gagner. Donc, on retourne au Japon.
Allez.
Est-ce que c'est une semaine qui est à cheval entre deux mois? Par exemple, le mercredi, on sera le 30 novembre.
Okay.
Et le jeudi, on sera le 1er décembre.
Okay.
Est-ce que c'est une manière de manger très rapidement, un peu comme Sangoku dans Dragon Ball? Est-ce que c'est une personne qui est connue pour une mauvaise chose? Par exemple, Soko Asahari, dans la saison 2, épisode 15 de la secte Aum, qui avait fait un attentat au Japon. Vous
rappelez? Oh, les références. Épisode 2, la saison 2 à la fête.
Oui. Ou Cyril Hanouna. Et,
je crois que c'était la définition de Gabriel.
Ouais,
Cyril Hanouna. Voilà.
J'ai cru
très connu au Japon.
Cyril Hanouna. ou donc la réponse D, c'est le sentiment de gêne qu'on a quand les gens chantent joyeux anniversaire. Comme 95% des gens sont sceptiques.
J'adore.
Donc une semaine à cheval entre deux mois, la manière de manger très rapidement, une personne connue pour une mauvaise chose, ou Cyril Hanouna, et les sentiments de gêne qu'on a quand les gens chantent.
Moi je dis la 4.
Ok.
Sentez bien la 4. Si je vais prendre la 2.
La 2, une manière de manger rapidement.
Monsieur prend la 4 et je change.
Non, mais parce qu'il a parlé de Dragon Ball, moi je suis obligé.
Ça va, ça va.
Bah je vais prendre la personne méchante.
Mais j'avoue, j'hésitais entre la 2 et la 4.
Enfin, la personne connue pour...
Donc il serait une gatsu, quoi. Eh ben non. C'est Son Goku.
Allez,
c'est la manière de manger très très rapidement.
On prend la tête.
Voilà. Bah voilà. Bah là, c'était la finale.
Non, il reste encore
il
3
reste
mots.
19.
Il reste 3 mots. On part en Islande.
Allez.
Lukavetur.
Il est très très dur. Surtout que la façon dont il est prononcé.
Lukavetur.
Il n'y a pas de K.
Lukavetur.
Donc G-L-U-W-G-A-V-E-D-U-R.
Ah, merci.
Donc, est-ce que c'est. Donc, je vous rappelle, on est en Islande. Est-ce que c'est la buée formée par les lunettes lorsque... quoi ? Formée sur les lunettes lorsqu'on prend une boisson chaude.
J'imagine trop le mec en train de... Oh ouais, je vais mettre ça, c'est bien.
ça m'a vraiment pris 2 semaines. Est-ce que donc la buée formée sur les lunettes lorsqu'on prend une boisson chaude, l'action de se coller la langue sur un poteau congelé...
Non, on n'est pas dans un dessin animé des années 90.
Est-ce que c'est quand le sexe masculin se rétrécit à cause du froid?
Incroyable.
Ou est-ce que c'est le temps qui paraît clément lorsqu'on est à l'intérieur, qu'on regarde par la fenêtre, mais qu'en réalité il est beaucoup moins agréable une fois qu'on est dehors?
Ah, la dernière, elle est bien.
Ouais, moi j'ai envie de dire la dernière.
Donc la buée à cause d'une boisson chaude, se coller la langue sur un poteau congelé, le sexe qui fait zut, et...
Bah dans un sens ou dans l'autre, mais...
Il fait beau, mais il fait pas beau.
Ah non, il fait beau, il fait pas beau.
Ouais, je pense parce qu'il faudrait vraiment un mot pour ça. Ouais. Autre que la douille, tu vois.
Genre...
Le cavatech.
Oh, je vais tendre la top. J'ai de l'avance.
Et ben, c'est le temps qui paraît clément lorsqu'on est à l'intérieur.
Ouais. J'aurais trop risqué la top.
Littéralement, ça veut dire temps de fenêtre.
Oh, c'est
joli. Ouais. Donc, il faisait un temps de fenêtre hier, là.
T'es chez toi, tu vois par la fenêtre, tu dis, oh, il fait beau. Tu sors, tu dis, oh, sa mère.
Ouais. Pourquoi tu as tant de fenêtre? Trop bien.
Je
vais te dire non.
Ouais, y a un truc à mettre dans le dico, je sais pas. Là.
On passe aux Philippines.
Gigil.
Simple.
Gigil.
Basique.
Gigil.
Ah.
Gigil.
J'entends pas bien. Gigil.
Gigil. Donc, est-ce que c'est une envie irrésistible de pincer ou de mordre votre crush parce qu'il est trop mips?
Est-ce que c'est vraiment pas
être en deuil d'amour parce que votre crush est parti? Long.
On est sur le thème du crush.
Bah ça, oui, ça viendrait de la chanson de Dalida, Gigi Lamoroso.
Non.
Parce que ses admiratrices étaient en deuil parce qu'il est parti à Hollywood.
Non, ça peut être possible ça.
Est-ce que c'est l'utilisation d'un vaudou pour convaincre son crush qu'il ou elle t'aime? Creep. Ou est-ce que c'est être bloqué en amour à cause d'un préjugé?
Ok.
Par exemple, moi personnellement, quand j'étais sur les applis, je voyais agent immobilier, c'était pour moi quelqu'un de droite. Et non, j'ai la flemme de t'expliquer que le wokisme n'est pas un fléau. Et c'est une vraie histoire.
C'est une tranche de vie.
Ouais. Donc, envie irrésistible de pincer ou de mordre votre crush parce qu'il est trop mignon. Être en deuil d'amour parce que votre crush est parti trop loin, hashtag Daïda. Ou utilisation de vaudou pour convaincre ton crush qu'il ou elle t'aime. Ou être bloqué en amour à cause d'un préjugé.
Je ne suis pas sûre que les Philippines, ce soit une grande terre de vaudou.
Et pourtant, on était à Sikh Hall et c'était la terre des sorciers. J'essaie juste de vous convaincre que c'est le bon truc. Hein.
Okay. Vas-y, c'est bon, je prends Dalida.
Allez, une Dalida.
Une Dalida.
Un suicide pour la droite.
Premier.
Le mordre quelqu'un.
Ouais, parce que pareil, j'aimerais bien que ça existe.
Ok. C'était bizarre.
Je serais... non, mais...
je veux bien mordre quelqu'un, moi aussi.
Mais non, mais genre vraiment qu'ils aient analysé, qu'ils aient dit, c'est vrai qu'il y a plein de moments dans notre vie où on a envie de mordre quelqu'un et c'est irrésistible.
T'as envie de faire une giggle, quoi.
Et bah, dernier, du coup.
Et donc, être bloqué en amour à cause d'un préjugé.
Absolument.
Et bah, il faut mordre votre crush.
Oh, allez, c'est beaucoup trop choupi.
Papa. Joli.
Voilà, bravo.
Donc, faites gaffe quand vous allez aux Philippines, par contre.
Si on dit giggle, ouais, c'est pas pour faire des giggles.
Petit amour de vacances, faites gaffe.
Ouais. Donc on termine avec la question du soir pour 25 points.
Allez.
On est en Suède. Et
non,
c'est
bah
le
non, on est
suédois. Mais si, on est en Suède. Écoute, les gens parlent suédois autour de nous.
Kukata.
Oh, c'est... Oh,
c'est, un... bon, c'est pas du tout du suédois,
c'est
ça.
C'est japonais.
C'est pas un streamer. Et surtout, je trouve ça très drôle, la version lente va vous prendre pour un con.
Kukata.
Kukata, voilà.
Donc, Kukata. Est-ce que c'est se réveiller assez tôt le matin pour sortir dans les bois et entendre les premiers oiseaux chanter?
Est-ce que c'est un mot aussi pour ça.
Faire une nuit blanche dans le but de profiter du calme de la nuit?
C'est un samedi soir. Mais...
Est-ce que c'est... ça dépend où t'habites.
Ouais, il fait nuit pendant 6 mois. Attends, les mecs.
C'est pas faux.
C'est nuit blanche de ouf, complètement.
Sinon, la C, c'est l'action de retravailler un objet pour lui donner une seconde vie. Ou enfin, c'est le mot qu'on donne à une réplique de film ou d'une série que tout le monde connaît. Par exemple, Winter is Coming, Game of Thrones, ou tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer de nos jours heureux.
Cette violence mise dans la culotte.
Alors, est-ce que tu peux nous le dire ? Je répète, c'est se réveiller assez tôt le matin
pour aller écouter les
oiseaux dans les bois.
Mais c'est-à-dire, c'est vraiment pour aller écouter les oiseaux dans les bois. C'est
ouais,
pas
quand t'as envie
c'est
de.
C'est pas pour faire autre chose.
Quand tu veux kokata.
C'est les oiseaux, forcément.
C'est t'as envie de te balader dans les bois pour entendre des couicouis.
C'est comme quand tu vas aux champignons, tu vas aux champignons.
C'est non, mais c'est, ça pourrait être, je sais pas, pour te reconnecter avec la faune, pas forcément avec les oiseaux. Non, mais c'est les oiseaux.
Okay. Oui, c'est les oiseaux.
Très bien.
Tout à fait. Est-ce que c'est donc faire une nuit blanche dans le but de profiter du calme de la nuit? C'est un certain moment, forcément, il fait calme. Est-ce que c'est l'action de retravailler un objet pour lui donner une seconde vie? Ou est-ce que c'est le mot qu'on donne à une réplique de film ou de série que tout le monde connaît? Qui va gagner, qui va gagner?
Pour une fois, je n'ai pas répondu en premier.
Moi, je tente la 4.
La 4.
Camille?
Ouais, moi, je tente les oiseaux, j'aime bien les oiseaux.
Les oiseaux.
Moi, je tente la 3.
La 3. Eh bien, Camille, tu vois, la remontada.
Oh, incroyable. Oh, incroyable.
Allez.
Magnifique.
Eh bien, bravo, tu as gagné mon respect.
Désolé, c'est mais qui l'eut cru?
Bravo. Et j'aime beaucoup, effectivement, la dernière description. Très mignon. J'imagine, tu bois un coup ce soir. Ah non, désolé, demain je vais cocata.
Ok.
Je peux venir cocater avec toi, peut-être. Trop chouette, j'aime beaucoup.
Merci.
C'était trop cool. On a appris des mots très mignons.
Carrément.
Et c'était très chouette.
J'espère qu'il y en a qui seront rajoutés, effectivement.
J'ai tout un dictionnaire.
Et même moi, le temps de fenêtre,
je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai fait dans l'ordre alphabétique. J'ai eu la flemme de les rechanger d'ordre.
Mais par contre, l'invention des définitions, grande performance.
Ah, merci. Ah, ouais, non, mais, merci.
Très, très bien.
Ouais. Il y a un super jeu de société sur la base de ce truc-là.
Vas-y.
Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est avec une appli mobile et genre, c'est des dialectes qui sont parlés nulle part au monde. Et t'as un mec qui entend les commandes des gens dans un resto qui parle cette langue-là et qui doivent le répéter et que d'autres retrouvent ce qui est écrit sur un truc. C'est un enfer total. Putain, c'est trop génial. C'est collaboratif.
Ah, mais si tu retrouves.
Je mettrai le lien en description.
Carrément.
Tu travailles sur le truc.
Trop bien. Bah du coup, bah tiens, la transition, ça va vers toi parce que c'est ton sujet maintenant.
Non, c'est Camille.
Non, bah c'est Camille, je le savais très bien.
Pardon. C'était pour voir si on écoutait.
Exactement. Et du coup, ce sera Camille avec Anne d'Autriche, c'est ça?
Tout à fait. Anne d'Espagne.
Allez, go. Pourquoi le rapport avec la Bretagne?
Tâche de t'employer dès la nuit de noces à Besonnier, t'as bien aimé.
Je suis désolée, mais l'héritier, j'ai peur que ce soit pas encore pour cette fois.
C'était Anne de Bretagne, duchesse en sabot.
Quand on arrive à caser Dorothée dans tes jingles, c'est que t'es tombé bien bas.
C'est vrai.
Pas vous mentir. Ou qu'on a fait beaucoup trop de jingles.
Quand j'étais là, jingle sur Anne de Bretagne, et là j'ai vu ça, et je me suis dit, allez.
Belle inspiration.
Sortons Dorothée.
Ah, j'ai cru comprendre qu'il y avait des questions d'action à faire entre époux, peut-être.
D'avoir des héritiers?
Peut-être, oui. J'imagine que ça se fait pas tout seul, tu vas pas au marché.
C'est la base. De la vie de jadis.
Oui, ouais, exactement. De naguère. Tout ça.
De naguère, exactement. Alors, donc, du coup, effectivement, je vais vous parler de Anne de Bretagne. Moi, depuis que j'habite en Bretagne, on la voit quand même relativement partout, Anne de Bretagne. Tu vois qu'elle est quand même.
Pas dans la vie de tous les jours.
Oui. Non, pas.
C'est genre, attends, mec, qu'est-ce qu'elle fout là-bas?
Je vais au Leclerc, bam, Anne de Bretagne, incroyable. Mais je veux dire, c'est un personnage historique dont l'image reste hyper présente et il y a un attachement de la part des Bretons pour la duchesse Anne. Et je connaissais de loin son histoire, mais je me suis dit, ça va être l'occasion de se pencher un petit peu plus là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de l'époque à laquelle vécut Anne de Bretagne?
Au Moyen-Âge.
1400?
Bah ouais.
Ah putain.
Fin 1400, mais 1400 quand même.
Bien joué.
En gros, effectivement, c'est la reine de France, parce que du coup, elle va être reine de France, qui est en règne au moment où on transite entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Mmh. Et si ça vous parle pas et que vous voulez juste un point de repère, elle est contemporaine de Christophe Colomb.
Ok.
Voilà, grosso modo.
Je connais le nom.
Voilà, c'est un bon point de repère souvent, Christophe Colomb. Et donc c'est une nana qui va avoir un destin pas trop vilain parce qu'elle va passer de orpheline très très riche, hein, pas orpheline qui orpheline Paris-Hilton,
genre Batman,
à chef de guerre, qui, tu vois, déjà est pas mal,
okay.
À Reine de France.
Mmh. Pas mal, pas dégueu.
Beau CV.
Et à deuxième mandat de Reine de France, ce qui ça est carrément unique. La meuf a été elle a été deux fois Reine de France. Et c'est pas...
Comment tu peux être deux...
Elle s'est mariée avec deux rois différents.
Ouais.
T'es balèze,
Malinx, le lynx.
Elle devait être bonasse.
L'histoire ne le dit pas, écoute. Hein.
Ouais, l'histoire... Mais non, l'histoire en plus nous la présente comme... En fait, avant qu'elle devienne reine... On disait oui, elle est hyper pieuse, elle est hyper sage, elle est hyper. Jamais on ne parle du physique.
En parlant de pieux.
Ouais, donc ça veut dire que.
Voilà, le pieux a quelque chose à voir avec
dès
tout ça.
Dès qu'elle est devenue reine de France, ah, incroyable. C'était charisme plus 2000. Ouais, tous les chroniqueurs nous disent c'est la plus belle femme du royaume. Enfin, toutes les reines de France, de toute façon, tu lis les trucs, elles étaient toutes.
Ah bah, bien sûr.
On a eu que des Miss France. Mmh. Incroyable. Et donc, du coup, Anne de Bretagne. Son père, c'est du coup le duc de Bretagne, François II, et comme tout monsieur qui a du pouvoir en ce temps-là et qui a des terres, eh bien, un des objectifs de sa vie, c'est d'avoir un héritier pour qu'il n'y ait pas trop de soucis à sa mort d'un point de vue succession.
Ouais.
Donc il est marié, et sa femme va lui donner deux filles, et va avoir le mauvais goût de mourir.
Ça part d'une bonne intention, mais bon. Ça...
Exactement. Et donc là, il se retrouve dans une position où...
Non, mais on va pas aller jusqu'aux positions, s'il te plaît.
Non, mais je veux dire, la Bretagne, la succession devait se passer d'homme en homme. Hein, il n'y avait pas de possibilité, normalement, à ce qu'une femme soit à la tête de la Bretagne. Mmh. Et puis, il n'a pas le choix, il n'a que deux filles. Et donc, du coup, il va préparer tranquillement les barons bretons à ce que ce soit sa fille qui prenne le relais. Et il va imposer.
Asseyez-vous, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle.
C'est un peu ça. Donc, à cette époque-là, Anne de Bretagne est toute petite, elle a 7 ans, et puis petit à petit, il va changer un petit peu son éducation. Il va la faire participer à lui, la vie qu'il a, enfin, tu sais, la faire venir aux représentations, machin et tout. Et,
il va la former, quoi, en alternance. Ouais,
en gros, c'est ça, à 7 ans, abusé. Et il la prépare pour qu'elle hérite, tout simplement, de la Bretagne. Donc, hériter de la Bretagne, c'est quoi la Bretagne à cette époque-là? Grosso merdo, ça n'a pas trop changé. C'est la Bretagne actuelle, mais en un peu plus grand. Étant donné que ça descend...
Le Morbihan aussi, non?
Le Morbihan, c'est toujours la Bretagne, ça n'a pas changé.
D'accord, ok.
Il y avait déjà le drapeau?
Le drapeau, je ne sais pas à quoi il ressemblait à l'époque, mais il devait être grosso modo comme ça, hein, possiblement.
Moi, c'est tout ce que je parle de la Bretagne. Il y a des drapeaux partout.
C'est vrai.
En France aussi, il y a des drapeaux bretons partout. Mais
oui, mais c'est
dans le monde.
Aux Philippines, les drapeaux bretons. Et ça descendait un petit peu plus bas parce que ça allait jusqu'à Nantes.
Là, on rentre dans des débats difficiles de façon.
Non, mais c'est la Bretagne historique. Et ça allait un petit peu à l'est de Nantes, ça remontait un petit peu le long de la Loire et ça englobait même une partie du sud de Nantes, donc je dirais, je sais pas, du nord de la Vendée actuelle, je suis pas très très bonne.
Le drapeau breton a été créé entre 1923 et 1925.
Ah, c'est de la fumisterie. Et donc, en fait, c'est un territoire, la Bretagne, qui est assez vaste pour l'époque. Enfin, c'est un duché qui est quand même très, très gros et qui est hyper difficile à défendre parce que la frontière terrestre, elle n'est pas énorme, en fait. C'est que de la côte. La frontière terrestre, on est en frontière directe avec un seul territoire, à savoir le Royaume de France. Et donc, si tu veux, quand t'es un duché ou un pays en Europe centrale, si t'es emmerdé avec ton voisin, t'as d'autres frontières, tu peux faire appel à d'autres souverains pour venir t'aider. Mmh. La Bretagne est complètement enclavée, en fait. Si t'es en guerre avec la France...
Niqué.
Ouais, c'est ça, dans le cul, franchement, tu te fais complètement avoir. Et le problème, c'est que les ducs de Bretagne, depuis plusieurs générations, enfin depuis toujours, c'est des ducs qui sont vraiment pour l'indépendance de leur duché, qui veulent pas plier le genou devant le roi de France ou devant le roi d'Angleterre, et c'est source de conflits avec le roi de France depuis fort fort longtemps. Donc il y a des guerres très régulières à l'époque où Anne est petite entre la France et la Bretagne, et en plus de ça le Royaume-Uni lorgne un petit peu également la Bretagne, et puis ils sont juste de l'autre côté de la Manche, donc pareil, ce serait facile pour eux de venir facilement. Et c'est pas un territoire uniforme comme on s'imagine aujourd'hui. Tu vas en Bretagne, il y a des panneaux en breton dans plein d'endroits, et t'as beaucoup de gens qui pensent à tort que du coup le breton était une langue qui était parlée dans toute la Bretagne, alors qu'en réalité non, il y avait plein de langues en Bretagne. Le breton actuel, je crois, j'ai dit peut-être une bêtise, mais je crois que c'est plus le breton du Finistère, enfin de la partie ouest-ouest de la Bretagne. À Rennes par exemple, ils ne parlaient pas le breton. Et
ils parlaient un autre dialecte.
Ah ouais.
Ils parlaient un autre dialecte, et j'ai complètement oublié le nom. Et c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui.
Breton du Sud.
On pense aujourd'hui que Anne de Bretagne, elle parlait pas un seul mot de breton. Déjà, elle a appris le français parce que c'était la langue de l'aristocratie.
Ouais.
Et, euh, et, et les femmes qui l'ont éduquée, notamment sa nourrice, elle était de Rennes, donc sa nourrice ne parlait pas le breton. Donc il n'y aurait aucune raison que Anne de Bretagne sache parler le breton.
Okay.
Voilà, grosse déception pour tous les fans
ça dénonce.
D'Anne de Bretagne, exactement. Donc voilà, pour situer un peu la Bretagne à l'époque. Bref, revenons-en à la vie d'Anne de Bretagne. En 1448, il se passe un événement, j'ai envie de vous dire, je ne vous l'apprends même pas. Qu'est-ce qui se passe en 1448
Le club de Nantes a gagné la Coupe de France.
88, ouais. Ça change tout. Un événement de folie. 4 ans avant la découverte d'Amérique.
Le départ.
Elle est née en quelle année?
En 1477, donc elle a 11 ans.
Elle a 11 ans.
Ouais.
Moi, je dirais le départ pour Christophe Colomb, parce qu'il est arrivé 4 ans plus tard, mais il a fait pas mal de routes.
Il a pas mis 4 ans.
Elle rencontre le roi. Bon, le roi. Il y a un crush avec le roi à 11 ans.
Mais non, je vois que vous l'avez oublié. Pourtant, la célèbre. La célèbre bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.
Mais j'allais le dire en plus.
Je l'avais sur le bout de la langue.
C'est facile.
Sur le bas du palais.
1515, c'est Marignan.
Jusqu'à 86.
S'il vous plaît, madame.
1515, c'est Marignan. Et 1488, c'est Saint-Aubin-du-Cormier. Donc, non, c'est une bataille entre la Bretagne et la France. Et la Bretagne va se prendre une énorme défaite. Et dans le traité de paix, la France va exiger à ce que le roi de France ait un droit de regard sur le mariage d'Anne de Bretagne. Donc, qu'il puisse dire, non, ce prétendant-là, je veux pas. C'était pour éviter toute alliance intéressante entre la Bretagne et une grosse puissance militaire.
Toujours de la géopolitique.
En gros, tout le temps, tout le temps.
Sur la Belgique.
Et en plus de ça, c'est l'année que choisit François II pour mourir.
Oui, c'est malvenu. Oui.
Voilà. Et donc, Anne se retrouve à 11 ans, duchesse, et elle va plutôt épater absolument tout le monde parce qu'en fait, elle va s'imposer un petit peu en chef de guerre. Et elle est entourée en chef de guerre.
Oui, mais à quel âge?
À 11 ans.
Ouais. Oui, c'est plutôt costaud. Hein.
Elle va surprendre un petit peu tout le monde. Alors, elle est quand même entourée par les barons de Bretagne, mais elle en impose, elle en jette. Et puis, on se dit assez rapidement, il faudrait la marier, sans trop demander son avis à la France, pour pas mal de raisons assez chouettes, finalement. C'est que, d'une part, à 11 ans, c'est bon, elle est en âge d'être mariée. Enfin, donc,
j'étais pas loin, en fait, avec mon histoire. De...
Oui, c'est vrai, c'est pas loin.
À un an près.
En deuxième point, c'est qu'à cette époque-là, une riche héritière, il y avait une tradition au Moyen-Âge qui était quand même assez courante. Enfin, c'est pas du tout une tradition, mais malheureusement, quelque chose qui se passait très souvent, c'est qu'un grand seigneur enlevait la riche héritière, la mariait de force, lui faisait des bébés, et paf.
Ah, du coup, alliance est... évidente, quoi.
Une fois que la femme est enceinte...
Ouais. Vous allez faire quoi? Vous allez
même
pas
si c'est un rapt, voilà.
Et
donc, du coup, c'était quand même hyper tentant pour devenir duc de Bretagne d'enlever une gamine de 11 ans, tu l'épouses, tu lui fais un enfant et paf, t'es duc de Bretagne.
Vache, c'est pas rangé. Hein.
Donc, on s'est dit, on va la marier rapidement pour tu vois, qu'on choisisse au moins.
Éviter les kidnappings, bien sûr.
Exactement.
C'est pour la protéger.
C'est pour son bien, bien sûr.
C'est pour elle qu'on fait ça.
C'est incroyable. Et donc on réfléchit à quel parti on pourrait avoir et puis on se dit écoute, il y a un parti qui est quand même incroyable, c'est Maximilien d'Autriche. Certes, il est un peu loin, mais c'est pas grave, ça se négocie parce que il a une armée de ouf et puis niveau militaire, il est quand même topissime. Donc ça va, il a 18 ans de plus qu'elle, c'est clairement tout à fait rentable. Ouais. Et donc
c'est la moyenne de l'époque, j'ai envie de dire.
Ah, 18 ans de plus, pas oui. 18 ans de quoi. Déjà 18 ans, il y a 7 ans d'écart.
Et donc il est vraiment en Autriche.
Oui, il est tout à fait en Autriche.
Est-ce qu'il s'appelait Yann Moix?
C'est pratique. Mais en tout cas, ils vont se marier, sauf qu'il est hyper occupé, il guéroie, donc il n'a pas trop le temps de se pointer à son mariage. Donc il va lui proposer un petit mariage par correspondance. Non. Et ils vont faire un mariage par procuration.
Sur Zoom.
Teams.
Une gamine de 11 ans, il s'est dit, non, franchement, flamme, signez les papiers.
Il envoie un ambassadeur, et pour officialiser le mariage, on va faire une cérémonie où l'ambassadeur va dénuder sa cuisse et mettre sa cuisse dans le lit de la reine. Oh. Et ça veut dire qu'il y a un homme qui est rentré dans le lit de la reine, donc le mariage est consommé.
Attends, j'ai pas compris.
Enfin, la duchesse.
C'est lui qui dénude sa propre cuisse.
Ouais. La petite, on la met dans le lit.
Oui.
L'ambassadeur, il dénude sa cuisse à lui. Et puis, il met juste sa cuisse dans le lit et il l'enlève. Et paf, elle est mariée.
Alors, je pense que pour les éditeurs, c'est assez clair, mais en fait, avec les gestes de Camille, c'est vrai que ça aurait pu être un peu inquiétant les mots avaient été sensiblement différents. Je comprends ta surprise du coup, Cham.
Ouais,
non, mais c'est que la cuisse. Enfin, voilà.
Et dans le lit.
Oui, dans le lit.
Juste le lit. Voilà.
Voilà.
C'est tout.
C'est, voilà. C'est, non, mais c'est une tradition.
Ça aurait
pu être pire, au final.
Bah, ah oui, non, mais voilà.
Bien pire,
ouais. Alors après, c'est un peu le mariage de l'échec, hein, parce qu'elle ne va jamais rencontrer son mari. J'ai envie de te dire.
Et du coup, pas d'enfant, c'est ça.
Genre. Ah bah, du coup, non, pas d'enfant.
Imagine les conseils, toujours pas enceinte, hein, franchement.
Qu'est-ce qu'elle fout ?
On aurait pu se marier depuis 2 ans et tout. On a fait ce qu'on a pu. Hein.
Et lui, il va jamais lui envoyer l'aide sur laquelle elle comptait pour réussir à défendre plus facilement la Bretagne. Donc,
vraiment un mariage de merde.
Ouais, mais voilà, le mariage de l'escroquerie.
Et enfin bon, elle est quand même reine, quoi.
Non,
ah
elle
non,
est.
Pas encore.
Ah non, pas encore.
Bah non, non, elle est duchesse de Bretagne.
Pas mal de mariage après,
je sens.
Elle est duchesse de Bretagne.
Et
t'as un monop.
Et les barons bretons vont commencer à se dire, est-ce que finalement l'astuce ce serait pas, comme on est en guerre contre la France depuis plusieurs années, qu'on la marie au roi de France, en fait. Est-ce que finalement ça aurait pas été ça la solution? Et le roi de France de son côté il se dit pareil.
Il se dit oh non j'ai un droit de regard. Hein, c'est
est-ce que finalement épouser Anne de Bretagne ce serait pas? Donc ils vont décider de se rencontrer pour voir. Mmh. Et le courant passe bien.
Okay.
Et puis bah lui il a 21 ans alors à l'époque elle en a 14 c'est déjà moins.
Ça
tu vois, voilà.
Putain, mais déjà un roi de 21 ans mais qu'est-ce que tu fous avec ça putain? Encore des boutons sur la tronche et tout.
Et lui je crois qu'il était roi genre depuis ses 12 ans un truc comme ça. Enfin,
qu'est-ce qu'il veut diriger un pays? Pardon, excusez-moi, t'es un peu réac là.
Non, non, mais
je l'ai senti.
Ouais, petit jeune, là. Et donc, Charles VIII et elle ont décidé de se marier. Donc, c'est pas parce qu'ils s'entendent bien que c'est un mariage d'amour, hein, c'est juste que.
C'est déjà ça, ils ont dû se dire, franchement, vu l'époque.
Ouais, non, puis ils s'apprécient, ils sont quand même assez jeunes tous les deux, ils ont hérité tous les deux de responsabilités, je pense, très fortes, jeunes. Voilà.
Puis entre ça ou un vieillard de 60 ans, ouais.
Oui, c'est ça. Et puis, mais c'est, tu vois, c'est rigolo parce qu'ils se font la guerre depuis des années. Et puis finalement, un mois et demi, changement de situation. Mmh. Et finalement, on se marie.
On va péter la gueule à l'Autriche. Là,
tiens, et bah, du coup, ils veulent se marier hyper vite parce qu'en fait, ils veulent le faire dans le dos de Maximilien. Pour que Maximilien, juste un coup, il ouvre le journal et qu'il voit qu'Anne de Bretagne, en fait, elle a épousé complètement quelqu'un d'autre et que le mariage est complètement caduc. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que Anne était mariée, mais donc elle arrive à faire passer que c'est caduc, que ça n'a jamais été consommé, de machin et tout, et tac, à faire annuler son mariage. Et ce qui est emmerdant, c'est que Charles, lui, il était fiancé depuis des années à une fiancée étrangère, qu'on a fait venir en France depuis qu'elle était toute petite pour lui apprendre le français, pour le machin et tout.
Il
doit renvoyer sa petite fiancée de 12-13 ans dans son pays. Et ce qui est fou de fou, c'est que cette petite fiancée, c'est la fille de Maximilien. Donc Maximilien, il s'est fait douiller en double.
C'est trop bien comme histoire, j'adore.
Bah, lui, c'est vraiment le gros loser de ce bail.
T'imagines le premier Noël après ça, et c'est genre putain, qu'est-ce qu'on a foutu, bordel.
Et donc, ils vont mettre des clauses dans le contrat concernant l'héritage de la Bretagne. Parce que Anne va lui dire, mais par contre, non, la Bretagne ne devient pas une région française, en fait. Ça reste un duché indépendant. Donc, les clauses qu'ils vont se dire, c'est si le roi meurt avant elle, elle récupère la Bretagne en tant que duchesse. Elle retourne en Bretagne. Mmh. Et voilà.
Et si elle meurt avant lui, elle garde la Bretagne quand même.
Si elle meurt avant lui, la Bretagne devient française. Le roi récupère la Bretagne.
Ça va, ça se tient.
S'ils ont des enfants, non, à cette époque-là, les femmes enchaînent les enfants, donc il y avait quand même d'énormes chances qu'elles meurent avant. Mmh. Donc c'était plus bénéfique pour la France, en fait. Mmh. Souvent, les reines mouraient avant les rois. Donc du coup, tu partais du principe que la Bretagne allait devenir française.
La côte, elle était pas ouf, quoi.
Non. Et donc, s'ils ont des enfants, le premier fils héritait du royaume de France et le deuxième fils du duché de Bretagne. Comme ça, ça restait séparé. Donc, pas trop mauvais deal. Mmh. Et par contre, dans le cas assez improbable, le roi... non, ça va. Où le roi mourait avant elle, elle retourne en Bretagne, mais si elle n'a pas de fils, elle s'engage à épouser le successeur du roi.
Ah, d'où le double service. Mmh.
C'est ça. Mais pareil, on s'est dit, non, mais ça n'arrivera pas. Enfin, déjà, il ne faudrait pas qu'elle ait de fils. En plus, il faudrait que le roi meure avant. Enfin, voilà. Et puis, elle était contente du truc parce qu'elle s'est dit, je suis toute jeune, des fils, je vais en faire plein. Aucun problème. Et effectivement, elle va accoucher 8 fois.
Oh, pêcheur.
Ouais.
Oh, la vache.
Plein d'enfants maladies infantiles. Enfin, le drame de l'époque. Hein. Et l'enfant qu'elle va avoir qui va vivre le plus vieux avec Charles VIII, c'est Charles Orland. Alors après, en même temps, on n'a rien de
trop. Orland.
Ouais, il se sera appelé Charles Orland, le roi de France. Non. Et Charles Orland premier. À l'école, ça aurait été un enfer.
C'est pas facile à prononcer.
Ouais, ils auraient raccourci le truc, non, ils font ça.
Orlan premier.
Charlor.
Pourquoi pas. Mais non, il est mort à 3 ans de la rougeole.
Ah ouais.
Ouais, et.
Pas vieux, hein.
Bah non. Et elle, en fait, elle s'est tapée 8 accouchements, c'est sans compter les fausses couches qu'elle a eues.
Oh la vache.
En très peu de temps, elle était tout le temps enceinte. Ah, c'est vraiment une poule pondeuse.
Le four avait des fuites.
Et, et en plus, comme son mari faisait les guerres d'Italie. Partait, etc., partout. Elle était régente du royaume de France, enceinte, à se taper ses fausses couches, ses accouchements, sa dépression parce qu'elle perdait tous ses enfants. Enfin,
après, tu me dis, ouais, en plus, quand tu dois gérer un royaume, je pense que niveau nervosité pour la grossesse, ça doit
puis
pas
tu,
être.
Puis évident, tu sais que ton mari, il est en train de se faire trucider dans la guerre d'Italie, qu'il n'y a pas d'héritier. Enfin, niveau stress, t'es bien. Je pense que niveau Xanax, elle y allait fort. Et elle a perdu une fois de plus un enfant, elle a eu un petit coup de déprime, et puis Charles, il s'est dit, je vais organiser des festivités, tu sais, pour lui remonter un peu la patate et tout.
Petite teuf, là.
Donc, exactement, il organise des festivités à Amboise, et puis bah, dans l'euphorie, il s'est tapé contre un linteau de porte et il est mort.
Ah, c'est lui, ok.
Ah, la mort con, hein.
Ah bah, la mort hyper con. Il s'est pris la porte.
T'imagines l'organisateur de la soirée.
3 heures plus tard.
Du coup, je t'ai pas payé, c'est ça?
Il n'y a pas bon être grand.
Donc elle retourne chez elle. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la succession? Alors, il y a un successeur qui est le cousin du roi, et Louis d'Orléans. Et Louis d'Orléans, lui, ça lui irait bien hein, d'épouser Anne de Bretagne, mais il est marié de longue date, mariage bien consommé. Donc, il s'est dit, flûte, comment récupérer la Bretagne? Alors, il va y réfléchir et il s'est dit, bah, en fait, il faudrait tout simplement que je divorce. Assassiner ma femme, c'est quand même un petit peu extrême.
Allô le pape?
Exactement. Allô le pape? Ma femme est difforme. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement faire quelque chose? Et le pape a dit, bah attends, je vais t'envoyer des gars pour vérifier ça. Et donc cette pauvre nana, Jeanne de France, elle a dû se taper des visites médicales, des trucs et tout, pour qu'au final on trouve, je cite, attends, j'avais noté précisément ce qu'ils ont dit, qu'elle était inapte à recevoir la semence virile.
La quoi?
La semence virile.
Donc elle avait pas de gamin encore?
Non. Et donc elle a été répudiée. Et ouais, bah elle s'est reconvertie en religieuse, elle a été canonisée, c'est Sainte Jeanne aujourd'hui.
Ah bah bien raison. Hein.
Bah sa reconversion a plutôt bien marché, elle s'est trouvée une autre vocation.
C'est mieux qu'être deux fois reine ou pas?
Bah je sais pas, au moins elle était tranquille. Ah, ouais. La quiétude, le bonheur.
Bah Louis du coup il règle son petit, tu vois, son petit divorce, et puis dès qu'il a divorcé, tac tac tac, il galope en Bretagne et puis il dit à Anne, devine quoi?
Salut.
J'ai dispo.
Tu devineras jamais. Et elle s'est dit, bah chouette quoi, c'est reparti pour un tour. Donc elle épouse ce roi-là. Et à nouveau, eh bien, elle va enchaîner les grossesses. Et elle va avoir 2 enfants, Claude et René.
Oh, les prénoms, pardon.
C'est... 2 filles.
Ah oui.
Et oui.
Ah oui, parce que ça partait bien, mais. Mais non. Ouais.
Donc elle va avoir 2 filles qui vont toutes les deux atteindre l'âge adulte. Et donc. Comme Anne de Bretagne.
Donc, en cumul de gamins réussis à sortir 10. Du bordel, on est déjà à 10 là.
On est à 12,
12.
Au total. Ah, ouais. Elle a eu 12 accouchements, Anne de Bretagne.
12 avec un astérix, avec toutes les personnes non déclarées.
Enfin,
non sorties.
C'est ça. Et mais non, mais on est même à 14. Si elle en a eu 8,
on est à trop.
Moi, ouais, voilà. Enfin, ouais, elle en a eu plein. Et,
on perd le compte. C'est ça.
Et justement, eh bien, on ne sera pas étonné qu'elle va mourir assez jeune, en fait, Anne de Bretagne, parce qu'elle a été enceinte en permanence pendant 20 ans.
Vache.
Ouais. Ce qui est, on a une autre reine de France qui a eu ça. La femme de Louis XV, elle disait toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée. Elle lui a donné à Louis XV 10 enfants en 12 ans. Tu te dis, t'es sûr?
Putain, mais si L214 existait à l'époque, ils auraient fait une action.
Non.
Sauver la reine.
Je sais pas.
Et donc non, elle, en plus, elle se cumulait ce qu'on appelait la gravelle à l'époque, c'est des genres de calculs rénaux. Donc, du coup, bah, elle est morte d'épuisement, la pauvre Anne de Bretagne, à l'âge de 37 ans, je crois.
Vachonne.
Ouais. Et elle était tellement aimée que son corps a été exposé, genre comme Henri IV, mais genre hyper longtemps à Blois, mais plusieurs semaines, je crois. Et puis, bah, ensuite, elle a donné son cœur à la ville de Nantes. Qui est toujours du coup visible dans un beau reliquaire et qui a été, je sais pas si vous aviez suivi, mais qui a été volé en 2018.
Ah merde, non.
Des mecs avaient volé le cœur d'Anne de Bretagne.
Ah,
il me semble, c'est et pas dans le château là où il y a un toboggan.
Si, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Et les policiers ont retrouvé le cœur d'Anne de Bretagne une semaine plus tard, enfoui dans la forêt. Enfin, non, mais un truc de malade. Et ouf, tout va bien. Le cœur d'Anne de Bretagne n'a rien. Et pour clôturer, comment ça s'est fini, du coup, cette histoire d'héritage? Parce que du coup, elle meurt, elle a 2 filles.
C'est des bonnets rouges qui ont débarqué.
Comment?
C'est devenu des reines régentes. Enfin, des reines qui dirigent.
C'est
elle, elle s'était engagée à réépouser l'autre, et ça, ils ont magouillé avec le cousin.
Ah, mais du coup, elle est morte.
Donc, c'est bon. Mais elle, elle est morte et elle lui a pas donné de fils.
Donc, ils rendent la Bretagne à qui, là ?
Eh ben justement, c'est sa fille aînée qui va récupérer la Bretagne.
Ah, mais Claude. Je pensais qu'elle avait récupéré le royaume
Claude
de
France. Bretagne, personne connaît.
Une fois que son père était mort.
Il n'a pas eu.
Non.
Pour faire les autoroutes, elle.
Claude de France, du coup, qui récupère la Bretagne de sa mère. Et Claude de France, on va lui... Claude de France, on lui fait épouser le futur roi de France, parce que du coup, il n'y a pas d'héritier. Donc, quand Louis va mourir...
T'as l'histoire qui se répète.
Mais ouais, un autre cousin, encore. Le futur François 1er, François d'Angoulême.
Je pense que ça vous dit, on fait pareil, parce que franchement, si on trouve autre chose, ça va être casse-couille.
Et Claude, elle, contrairement à sa mère, elle en a un petit peu rien à foutre de l'indépendance de la Bretagne. Vraiment, c'est... Donc, du coup, elle va offrir la Bretagne à son mari. En disant, tiens, rajoute ça à ton royaume.
On facilite les papiers.
Ma mère, elle en a trop chier. J'ai pas eu de merde avec ça. 14 gamins.
Quelle horreur. Et donc, du coup, voilà comment la Bretagne est devenue la France.
Eh bien, on aura galéré à récupérer cette Bretagne. Hein. Mmh.
Ah, bah, c'est elle qui aura galéré.
Oui, j'avoue. Oh, j'avoue, la pauvre, hein, vraiment. Oh, vache. C'est sans batterie, quoi. En rafale, les enfants. Là.
Tu vois, dans ses biographies, qu'elle priait tout le temps. Et tu dis, mais tu m'étonnes, tout le temps enceinte avec sa
femme. Oh, horrible.
Tu fais quoi ce soir? Bah, je vais tenter.
Comme tous les jours.
Je vais faire des choux à pique, et toi?
Bah, écoute, vois, bon, j'imagine que l'avenir que tu vas nous décrire, c'est un petit peu différent de celui d'Anne de Bretagne. Là, pour le coup, je ne me trompe pas, c'est bien à toi.
Si tu t'occupes pas de politique, eh ben la politique s'occupera de toi.
La fraternité des peuples n'est pas une utopie.
Enfin bref, c'est du passé. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui.
Je vous ai compris.
Ah, je vous ai compris, quoi. Là, on est allé à fond, là.
C'était une commande.
Bon, je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai noté plein de trucs pendant qu'on causait.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gribouillis.
Mais moi, j'avais l'impression qu'on avait un inspecteur, tu sais, avec nous.
Alors ça, c'est nul. On va les balancer à SSM, ok.
Non, j'ai noté 9 trucs cool. Enfin, auxquels ça.
Eh ben, c'est une bonne moyenne, écoutez, hein, pour un épisode.
Ouais, 9 trucs qui m'ont plu dans ce que vous avez.
Alors déjà, est-ce que tu veux me dire que genre quelle était ta volonté première avec ce sujet?
J'ai cru que tu allais dire. Tu peux nous dire lequel sujet t'as préféré parmi nous?
J'ai tout aimé. En fait, j'avais plein d'idées de sujets pour venir. Et moi, je me suis dit, le plus simple, c'est de raconter ce que je fais et de tirer un petit fil. Et c'est lié à des rencontres récentes, en fait. Et j'y viendrai après, en fait. Je vais pas le dire.
Ok, vas-y, vas-y.
Mais du coup, peut-être juste pour vous raconter, je vous propose de pas hésiter à réagir. Moi, ça fait 5 ans en fait chez Bleu Blanc Zeb, du coup maintenant j'en parle. Nous, on a décidé de voir la vie du bon côté. Et on a été un peu créé pour ça, pour se dire qu'en France, il y a des problèmes et qu'en fait, à ces problèmes, il y a des solutions qui existent déjà. Et notre job, c'est d'aller les rencontrer et comprendre comment ils marchent. Et puis essayer de les vendre aux gens qui décident de comment la France, elle va fonctionner demain, en se disant, okay, bah, si vous appuyez sur les trucs qui marchent déjà depuis longtemps, ça a peut-être des chances de bien marcher.
C'est top.
Et donc, c'est trop cool parce que tous les jours, je vois des gens trop sympas qui font des trucs trop géniaux depuis super longtemps. Et en même temps, ça donne envie de se dire, bah merde, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça que ça marche, tout simplement.
Ouais. Ça fonctionne à une petite échelle et ça peut...
Carrément. Et donc, c'est un peu le principe chez nous, c'est que des trucs qui marchent dans 2, 3, 300 patelins, mais qui n'en font pas encore la règle. Et donc, on passe un peu notre vie à essayer de bien comprendre comment est-ce qu'on peut les aider à se faire connaître un peu partout.
T'as des exemples
J'en ai plein.
J'en ai plein.
Mais du coup, je vais prendre les exemples que j'ai eus depuis qu'on discute depuis tout à l'heure, parce que ça m'a fait penser à 9 trucs, je ne vais peut-être pas faire la liste. Mais juste quand Ilias, il causait des sujets un peu de violence dans la rue. Ça, on en a des cartons, des trucs géniaux qui sont nés un peu dans les quartiers. Et du coup, ça me faisait penser à un truc qui s'appelle le chaos des mots. Et c'est un peu du breakdance,
okay,
mais en mode concours de dictée.
Quoi?
Et du coup, ils font ça dans les classes, dans les quartiers. Et t'as un mec qui produit un texte. Et ensuite, c'est les gars qui vont... rédiger leur le truc sans faire de faute le plus vite possible. Et donc c'est des petits concours comme ça de
trop drôle.
Ouais, il y a plein de trucs.
Un concours d'écriture, il faut que ce soit lisible, j'imagine, sinon c'est un...
Ouais, c'est sur les ordi maintenant, passe au 21e siècle. C'est
voilà. Pardon, excusez-moi.
Et à l'oral, il y a pareil, une grosse structure qui s'appelle Eloquentia qui a créé des concours d'éloquence. Ouais. Ça se fait énormément dans les classes maintenant et dans les petites classes pour apprendre à être pas d'accord mais à savoir l'exprimer. Et en fait ça
super impressionnant.
Ça cartonne, ça fonctionne, c'est plus de 2000 encadrants aujourd'hui, il y a des championnats d'Europe d'éloquence.
C'est trop bien.
Et ça se développe vachement bien. Peut-être juste un petit troisième sur ce truc là, c'est comment on parle des quartiers aujourd'hui. Et en fait, il y a des médias spécialisés pour raconter les trucs cool qui se passent dans les quartiers au quotidien. Parce qu'en fait, j'ai une petite stat où je me gourre souvent, mais c'est pas grave. Mais c'est entre 70 et 80% des petites boîtes qui elles sont créées dans les quartiers, en fait.
Ah ouais.
Okay. Et en réalité, c'est des territoires d'entrepreneuriat
très fort. Entreprises, hein, pas les petits cartons.
Ouais. Du coup, des médias comme le Bondy Blog à Bondy, Fumigène. À Roubaix, je crois, c'est des médias où ils forment des journalistes directement dans les quartiers, donc des gens qui comprennent ce qui se passe plutôt que, sans être vulgaire, les gens qui y vont juste quand il y a des trucs mauvais qui se passent et du coup ça donne une mauvaise image. Et donc comment est-ce que tu arrives à raconter régulièrement des trucs hyper positifs? Bref, voilà, ça fait quelques initiatives comme ça, et à chaque fois, c'est des centaines, voire des milliers de gens qui profitent de ça. Et donc, nous, notre job, c'est d'essayer de faire le lien avec les élus locaux, les politiques, aussi les grandes entreprises qui, souvent, sont implantées dans les quartiers un peu partout, dans les quartiers et dans tous les territoires. Ouais. Et en fait, ils sont aussi habitants de ces endroits-là. Mmh. Et en fait, ils ont aussi des problèmes qui sont concernés par ces endroits-là. Et donc, on essaie de voir avec eux comment est-ce qu'on arrive à élargir un petit peu la manière dont ils accompagnent leurs salariés à être contents dans cette boîte-là, ou ils travaillent avec leurs habitants sur c'est quoi vos problèmes. En fait, il y a plein de trucs qui existent ailleurs qu'on pourrait développer chez nous.
Ah, puis c'est des choses, je trouve ça trop cool parce que c'est des initiatives qui vont directement toucher les gens, qui vont changer leur quotidien, ça va jouer sur beaucoup de choses. Tu parlais de l'humeur, de plein de trucs, etc. Mais c'est du bien-être quotidien qui peut changer beaucoup de choses. Parce que quand tu te sens mieux, tu peux avoir plus d'idées, plus d'initiatives, ou plus ta santé, tu vas mieux te porter.
C'est ce que j'allais dire, même la santé physique en fait. Hein.
Exactement. Donc, ne serait-ce que d'un prisme purement économique. Ce genre de choses, en fait, c'est rentable, c'est intéressant. Donc, c'est pas juste du...
Il y a des calculs qui se font, d'ailleurs. Ouais. Les écoles de commerce commencent à s'y mettre, à voir comment est-ce qu'on arrive à mesurer économiquement, comment ça fait que socialement, ça aille mieux.
Ouais.
Donc, il y a plein de théories là-dessus sur lesquelles je vais pas développer. Mais du coup, ça me fait basculer sur un peu le deuxième truc autour de comment est-ce qu'on construit des imaginaires positifs. Parce que c'est un peu ça mon thème, là.
Ouais.
Et je suis pas un grand expert du truc, mais on va essayer de le travailler un tout petit peu ensemble.
Okay.
Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui dans la société.
Ah, dans la société.
Dans la société.
Grande question. Grande question.
J'en ai trois comme ça.
Moi, je dirais que c'est le rejet des autres. Enfin, le fait que t'es pas... Comment dire ?
Les racistes.
Ouais, plus ou moins, qu'on te juge sur ce que tu es, alors que t'as rien demandé à personne, en fait, tout simplement.
Trop bien.
Ok.
Enfin, pas trop bien, mais...
trop cool.
On va y revenir.
Je sais pas comment exprimer ça, c'est le fait... j'ai l'impression qu'il y a des cercles vicieux, notamment si on pense en termes de ressources, entre guillemets. Les plus riches deviendront forcément plus riches, et leur richesse ne va pas, comment dire... Bah, je ne vais pas utiliser le terme de ruissellement, mais ne va pas être utilisé pour un bien commun, enfin pour un avantage commun.
Donc, okay.
Il y a
l'accroissement des inégalités.
Voilà, très bien. Monsieur est un expert.
Moi, c'est le fait qu'il y ait de toutes les personnes qui refusent qui préfèrent ne pas changer leur habitude plutôt que, le fait qu'on soit hostile au changement tout le temps. Que tes habitudes passent avant l'écologie, avant tout un tas de trucs, quoi.
Ok.
J'ai l'impression que ça fait un peu ces groupes de parole.
Oui, exactement.
Ah mais c'est un côté un peu relaxant, ce genre de.
Ouais. Bien dire des.
On après j'avais un truc sur la colère, mais on peut se dire que c'est un peu la même chose, peut-être qui va ressortir. Ce qui vous met en colère aujourd'hui.
La non-acceptation de l'autre. Donc oui, ça rejoint. peu importe de ce qu'il est, de ce qu'il veut, ce qu'il fait.
Alors, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai une espèce d'honnêteté, en fait. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'honnêteté, dans le sens où il y a des énormes conneries qui sont faites, et c'est pas grave, entre guillemets, ça arrive. Mais le fait qu'on essaie de le cacher en disant « Ah non, non, mais franchement, c'est pas moi, j'ai pas fait ça », ou « Non, non, on n'a pas dit ça », ça m'en ouf. Faire des erreurs, c'est pas grave. Ignorer les erreurs, c'est dramatique.
L'incapacité à se mettre à la place des autres. C'est le manque d'empathie.
Aussi, okay. il y en a qui prennent les boulots d'adultes sans problème. Ils prennent les mandats et tout, hein, c'est pas bien.
Ouais, mais c'est pas forcément témoignage de beaucoup d'empathie. Tu vois.
Ouais, c'est vrai. Ils les ont piégés. Si on a le plus de carré ou plus de rond, c'est quoi notre personnalité?
Alors, j'ai pas encore fait de triangle, mais oui. Et si je vous demande ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui ou qui vous rassure?
Bah, un peu ce que tu dis, en fait, le fait qu'il y ait des initiatives. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a du... Enfin, tant qu'il y a du mouvement, c'est rassurant. Tant que ça communique, entre guillemets, c'est rassurant. À partir du moment où il n'y en aura plus, on sera dans une merde bien plus avancée. Mais tant qu'il se passe des choses, il y a toujours une chance que ça se passe de mieux en mieux, en mieux, en mieux.
Ouais, moi, c'est à peu près pareil. C'est le... Ouais, les chaînes positives qu'il y a parfois, quoi.
Cercle vertueux.
Ouais. Les gens avec les good vibes et les bonnes idées.
Cool.
Ouais, c'est ça. C'est les gens, en gros, qui nous entourent. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi, c'est ça. Les gens qui m'entourent, qui sont justement dans ce délire de te tirer vers le haut, qui sont là, qui ont ça va pas et qui...
C'est des gens inspirants.
Exactement.
On est un peu en train de faire une dédicace à tous ceux qu'on aime.
Exactement. Voilà.
Et les auditeurs, auditrices qui nous likent sur les réseaux sociaux, qui nous envoient plein de messages gentils, qui nous mettent 5 étoiles sur Apple Podcast. Ceux-là, c'est nos préférés.
C'est génial.
Et la concoyote aussi, ça rend.
Non, pas ça. On coupera ça.
Ok, trop cool. Merci pour vos retours.
Écoute, merci à toi.
C'était vraiment super. Non, mais j'ai promis de ne pas faire trop long et je ne sais pas combien de temps ça a duré.
Oh putain.
Moi, je voulais vous demander. Je vais arrêter avec les questions, après, c'est un peu long. C'est quoi votre film catastrophe préféré?
Catastrophe? J'aime pas trop les catastrophes.
Ouais, moi, je suis pas très.
Qu'est-ce que tu veux dire par catastrophe? Donc, est-ce que, par exemple, le film Seul au monde, là, c'est un film catastrophe?
Ouais, si, un peu, oui.
Un peu?
Bah,
ça Ah putain, bonne question.
Wilson!
Oh, putain, ça va être long par contre. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête? Oh, en vrai, j'ai pas d'idée.
Le premier truc qui vous vient en tête, si je vous demande un film que je dirais dystopique, genre un truc catastrophique.
Moi, dystopique, La Servante Écarlate, clairement, okay. La série.
Ah si, moi, pourquoi pas? J'avais ça en tête, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ce qui me vient en tête, Futurama. Voilà.
Cool. Alors, j'ai regardé sur Internet, quand tu tapes top film catastrophe, t'as le top 1000, le top 110, le top 20 des films catastrophes. Okay. Et donc, ça, c'est pas très, très dur d'en trouver.
Mm-hmm. Du coup, tu vas nous lire le top 1000
ça va être assez rapide.
Alors, 999.
Et du coup, je vous recommande, je fais une petite promo pour un autre podcast, mais dans 20 minutes avant la fin du monde, il y a un truc sur les films catastrophes qui est assez bien foutu. Les
copains de Fréquence Moderne.
Et du coup, si je vous demande des films utopiques.
J'en ai pas. Non, mais j'en ai pas. Bah, on part du principe que le fait que ce soit de la fiction ne suffit pas à dire que c'est une utopie.
Bah, déjà, si c'est un truc génial qui se projette vers l'avenir et qu'il y a un truc qui vous vient tout de suite.
Nos jours heureux.
Ouais, non.
Là-haut.
Ah, mignon.
J'ai aucune idée.
Ce qui est super intéressant, quand tu cherches le top 20 des films utopiques qui donnent de l'espoir, en fait, t'as Les Temps Modernes, La Planète des Singes, Orange Mécanique, 1984.
Mais que des trucs déprimants, quoi.
C'est hyper flippant.
Orange Mécanique,
The Truman Show, Bienvenue à Gattaca, où en fait, t'as des trucs un peu futuristes où l'organisation de la société s'est un peu accélérée. Le
Truman Show, il était...
Moi, ça me fait penser à Black Mirror, perso.
Ouais, c'est vrai.
Où, si tout va mal, où est-ce qu'on irait demain? Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, moi, le film que j'avais noté, c'était Demain. Je sais pas si vous l'avez vu.
Pas tout.
Magali Payen, si je me gourre pas de nom. Où c'est une histoire de gens qui vont un peu autour du monde pour voir des villes qui se sont inventées différemment, etc. C'est eu un gros succès. Mmh. Mais en fait, à chaque fois, c'est des documentaires.
Ouais.
Et donc, la question qui se pose un peu en ce moment avec pas mal de gens, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un récit un peu dans le même sens que Black Mirror, où on se dit on prend un truc de société qu'il y a aujourd'hui
Et si tout dérape, où est-ce que ça nous emmène? Et ça, on y arrive hyper facilement. Aujourd'hui, les médias, ils arrivent bien à s'appuyer sur des trucs difficiles et on entretient pas mal un climat de peur, de colère, de stress, carrément. Etc., qui vient complètement conforter vos peurs de tout à l'heure, en fait. De se dire qu'on a peur du manque d'honnêteté, on a l'impression que chacun est replié un peu sur soi, qu'on accroît les inégalités, peut-être parce que c'est les informations qu'on nous donne ou les trucs qui marchent qui font que c'est dirigé par les gens qui ont envie qu'on ressente ça, sans être complotiste plus que ça, hein, c'est juste que c'est ce qui fonctionne et qui rapporte du blé aujourd'hui.
Et donc, ce qui est facile à manipuler aussi. C'est pas que les émotions positives n'existent pas, mais c'est plus compliqué à manipuler que...
Oh, ça me donne une idée de plus, ça raconte après. et du coup, peut-être juste pour venir dans l'autre sens, aujourd'hui, il y a plein de ressources qui existent pour pouvoir se faire du bien.
Pas parler de ça, les trucs plus de 18 ans et tout. Non.
Ça peut faire beaucoup de bien. Voilà, il y a le Netflix positif, je fais de la pub volontairement, mais un truc qui s'appelle Imago TV, recense tous les films, documentaires, etc., qui donnent un peu d'espoir.
Trop bien.
Et qui font travailler un peu le cerveau dans l'autre sens.
Ok.
Et donc ça, c'est un truc qui est hyper agréable. Et l'un des sujets, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui travaillent sur le sujet de l'émerveillement. Comment est-ce qu'on se projette vers un avenir un peu positif. Moi, ça m'a donné juste envie de vous parler de trois trucs. C'est Reporter d'Espoir. C'est une agence média qui s'est lancée il y a 20 ans, que personne ne connaît malheureusement, qui eux travaillent à former les journalistes au journalisme de solution et comment est-ce qu'en réalité ils vont aussi s'intéresser aux sujets intéressants pour en parler dans les médias. Et donc il y a un club, je ne sais plus, de plusieurs centaines de journalistes qui vont produire des éléments positifs autour de ça.
Tu dis que ça s'appelle comment ?
Reporter d'Espoir. Ils ont créé un truc, alors c'est exprès de l'actu, là, c'est pile en direct, parce que ça a été lancé hier, mais ils ont lancé la France des solutions il y a 15 ans, et il y a le gouvernement qui a lancé la France des solutions il y a 2 jours, pour donner les solutions aux maires, mais en fait ça existe déjà depuis super longtemps.
Mieux vaut tard que jamais, non ?
Mieux vaut tard que jamais, exactement. Il y a un truc qui est accessible au grand public, que vous pouvez tous faire près de chez vous, c'est la fresque des nouveaux récits. Ce qui est intéressant, c'est que ça traite justement du sujet des limites planétaires, des limites climatiques, des limites dans toutes les ressources en fait, et que ça t'accompagne à pouvoir te projeter dans un monde qui va être comme ça, mais en se donnant les bases pour pouvoir construire demain et se redonner de l'espoir en l'avenir, et donc de pouvoir se dire, si on doit se passer de ça, en fait, ça fait peut-être mal là à court terme, mais qu'est-ce que ça va te permettre de faire demain ? Ouais, donc, il y a beaucoup de sujets sur la relation avec la nature, la question de l'alimentation, la question de la relation à l'autre, les sujets qui vous inquiétaient ou qui vous font plaisir, de pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel. Le troisième dont je voulais vous parler, c'est carrément un centre de formation pour les romanciers et pour les réalisateurs de films qui s'appelle Imagine 2050. Okay. Et donc là, c'est bourré de scientifiques derrière pour justement créer... Le film, c'était quoi ? C'était 2021 ? Non, 2012. Oh putain, le temps passe vite.
Putain.
Hop, 2012, il y a la fin de la planète, machin, tsunami, etc. Et en fait, au vu des réalités, des chiffres et compagnie de ce qu'on voit scientifiquement aujourd'hui, c'est un truc qui nous paraît complètement ouf et en même temps qui se base sur un paquet de choses qu'on voit un peu au quotidien et qui peuvent nous faire peur. Et donc là, le sujet, c'est de voir comment est-ce qu'avec la racine de notre fonctionnement cognitif et des bases scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, quelle serait la succession d'éléments qui ferait qu'en 2050, on pourrait vivre un monde absolument fabuleux.
Okay. Ça serait cool.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire, de pouvoir sortir en 3 secondes, comme on l'a fait pour les films de catastrophe tout à l'heure, des trucs géniaux qui font que, dans ce truc-là, c'est trop ouf, il n'y a plus de politiciens, ou au contraire, les politiciens sont tous super vertueux, ou bien tout le monde se lève le matin et va parler à son voisin parce qu'il a sûrement des trucs géniaux à lui raconter. Bref, de voir comment est-ce qu'on peut changer des réflexes du quotidien aujourd'hui. J'ai un petit coup de promo à faire sur un bouquin qui vient de sortir, que je trouve super intéressant, qui s'appelle Ponce à Maro, qui a été écrit par Adrien Tardif, que tu connais sûrement. C'est hyper rigolo, parce que je trouve que ça reprend tout à fait ce qui vous fait peur aujourd'hui. C'est l'histoire d'un président un peu jupitérien qui se fait exclure de la société, en mode Victor Hugo, qui disparaît pendant plusieurs quarantaines d'années, et qui revient en France. Et en fait, le monde d'organisation à la française a complètement changé. Et en fait, ça c'est des systèmes auto-organisés avec 100% de partage des ressources, avec des modes de prise de décision collectifs. Et en fait, c'est plein de choses qui existent déjà comme type de pratique aujourd'hui dans des entreprises libérées, dans des assos, dans des villages, dans d'autres pays, et en fait qui vont confronter le monde d'hier, qui est en fait le monde d'aujourd'hui, avec un monde de demain hyper positif. Et du coup, ça donne pas mal d'espoir. Voilà, moi je voulais vous parler un peu de ces trucs-là en se disant il y a plein de manières d'imaginer les choses. Il y a des podcasts géniaux, le podcast 2030 Glorieuse qui interview des pionniers du monde de demain qui sont contribuent à essayer de créer un peu d'espoir dans la société. Et voilà.
Trop cool.
Bah, trop cool.
Bah oui.
Eh bien, trop bien, merci beaucoup. Ouais. Franchement, ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi, justement, parce que c'est beaucoup plus positif que ce qui me tourne dans la tête. Donc, ça fait toujours du bien, une petite bouffée d'oxygène.
Complètement.
Tu transpires la bonne humeur. Franchement.
Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Parce que alors, on croise pas tous les jours des gens pétillants qui, comme ça.
Non. Ouais.
Bah, qui donnent espoir, quoi.
Oui, c'est
et
ça.
Alors, on parlait tout à l'heure, donc tu nous as parlé de Bleu Blanc Zèbre, et vous avez un lieu social avec Bleu Blanc Zèbre également.
Ah oui, exact. C'est l'heure de la promo, mais en fait, on l'a fait. En fait, on s'est dit, les locaux associatifs à Paris, c'est la galère. Ça coûte hyper cher le loyer. Et il y a plein de structures qui travaillent au service des autres qui galèrent à payer ça alors qu'ils ont juste envie d'aider les gens. Ouais. Et donc, on s'est regroupés depuis à peu près 4 ans avec un certain nombre de structures pour créer un lieu en commun, pour pouvoir mutualiser les moyens et optimiser aussi le rôle social collectif qu'on pouvait avoir. Et donc, on a trouvé un espace de 450 mètres carrés à côté de la gare de Lyon, où dedans, l'idée, c'est de faire du lien à tous les étages. Donc, c'est un café-resto. On a une stat assez déprimante là-dessus et qu'on veut combattre, justement. Il y avait à peu près 400 000 cafés en France il y a un siècle. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ?
8.
Non, je n'ai aucune idée.
En France ?
Ouais.
Mais il y a 35 000.
Bah, t'es pas loin. On est passé de 400 000 à 38 000 cafés 10,
oh, putain.
En 100 ans. Et donc, il y a des trucs un peu flippants parce qu'on se rend compte que tous les derniers commerces qui ferment, bah, c'est là où il y a le plus de vote extrême, de repli sur soi, de conflits entre les voisins, etc. Parce que c'est des lieux de liens sociaux. Donc, on a essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait recréer des espaces comme ça. Donc, on a visité tout plein de lieux un peu partout en France pour voir comment est-ce que ces espaces-là, ils pouvaient avoir un modèle économique qui va bien. Et donc, ça passe par, en effet, un commerce. Mais un commerce, ça ne suffit pas. Il faut aussi des services à côté. Donc, on a un espace événementiel où tous les jours, il y a des conférences, des cours de yoga, cours d'informatique pour les vieux, des l'aide aux devoirs pour les gamins, des groupes de parole pour les parents d'ados qui n'arrivent pas à s'en sortir.
Des lives de podcast, bientôt, peut-être.
Des lives de podcast, avec plaisir. Des discussions potes et politiques pour savoir discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, pas du même bord politique.
Ça nous fait du bien à tous.
Énormément de sujets comme ça pour pouvoir être zen et parler des différents sujet et de savoir pas être d'accord. Et donc, on fait de la mixité générationnelle, de la mixité culturelle, de la mixité cultuelle. Il y a aussi des petits jeux pour pouvoir apprendre à parler des différentes religions sans s'engueuler. Et on en a ô combien besoin. Ça, c'est la partie événement. Mmh. Et derrière, on a des bureaux partagés où là, on est 10 structures aujourd'hui où on construit un petit peu les règles de vie ensemble. On partage nos bureaux, mais on partage aussi des métiers comparables, des difficultés comparables. Et donc, on a monté tout un paquet d'activités de liens entre nos différentes structures. Et ça fait qu'en 2 ans, là, il n'y a aucune structure qui n'a pas monté un projet avec une autre, alors qu'on ne travaille pas du tout sur les mêmes sujets au départ.
C'est incroyable.
Trop cool. Bah, franchement, bravo, c'est assez ouf.
Ça s'appelle le Kawa.
J'allais dire, ouais.
Voilà, le 24 Kawa. Avenue Daumesnil, vous venez quand vous voulez.
Vers Gare de Lyon, c'est très chouette.
Ça mérite un petit...
Et j'y suis déjà allé plusieurs fois, c'est un lieu très très cool. Franchement, c'est très sympa.
Tu m'en as beaucoup parlé.
Voilà, c'est bien placé. On aimerait beaucoup faire un live là-bas. Donc
complètement.
On va travailler dessus pour 2023. Mais voilà, c'est super agréable. En plus, c'est mignon, c'est confort. Enfin, franchement, c'est un très cool lieu. Donc, merci beaucoup en tout cas.
Carrément.
Et puis,
merci à vous. Trop plaisir.
On sera très heureux de partager les initiatives. et des initiatives de Bleu, Blanc, Zèbre, d'autres assos. C'est un bon rappel que bah, l'engagement, qu'il soit associatif ou non, parce que c'est pas forcément associatif, mais c'est super utile, ça peut changer des vies. Que ce soit, que ce soit juste faire un petit truc de quartier, aider les gens autour de soi, prendre une permanence pour, accompagner les vieux au cinéma ou que sais-je. Et ça peut changer plein de trucs, rencontrer du monde et puis même vous faire du bien. Parce que ça fait du bien quand on voit que les gens autour de nous vont mieux. Enfin,
moi,
ça fait
du bien. Absolument. Ah ouais, complètement.
Ça nous amène à la fin de cet épisode. D'accord, j'ai oublié personne. D'accord.
Non. On embrasse Juan.
Oui,
oui. Pas de chat.
Juanito qui malheureusement
doit être quelque part à l'autre bout du monde.
Reportage.
Exactement, bah, ça va venir.
Ça, ça se prépare.
Peut-être,
se prépare.
Peut-être un pour Noël. Qui sait
peut-être.
On
ne sait
pas. Et Noël approche.
Oui,
c'est ce mois-ci.
Oui, tout à fait. C'est,
c'est fou.
Bien sûr, parce qu'on est en direct.
Oh, oui.
Ne mettez pas la pause.
Oui.
Oui, voilà. Ça va, là, c'est notre épisode de décembre. Donc, effectivement, c'est un très bon réflexe. On peut vous souhaiter. Une bonne décembrade.
Joyeux décembre.
Voilà, des bonnes périodes de fin d'année. On devrait publier entre fin d'année, début d'année, mais on ne sait pas exactement. Mm. Si on ne l'a pas fait d'ici là, on vous souhaite un très très joyeux Noël.
Oui.
Si vous nous écoutez en juillet. Non. Vas-y.
À l'année prochaine.
Allez. Si vous nous écoutez en juin, bonne période de fin d'année aussi. Ouais. Hein,
bonnes vacances d'été.
Mais c'est juste que ça sera plus long, quoi, la fin d'année. En tout cas, c'était un grand, grand plaisir. On vous embrasse très, très fort. On fait un nouvel épisode tout bientôt. Mm. Et puis, on vous réserve des surprises pour 2023. Encore merci, Julien. C'est trop, trop cool.
Complètement.
Et si vous voulez vous rendre utile, quel que soit le moment où vous écoutez ça, vous pouvez aller sur jeveuxaider.gouv.fr. C'est un de nos partenaires où il y a des centaines de milliers maintenant de missions pour bénévole sur une heure, une journée ou plus.
Trop bien.
Très belle conclusion. Et sur ce, gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres, et à plus tard. Ciao.
Un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries ?
Veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.